Jérémy Junot, bienvenue à l'agenda.
Bonjour.
Ça va bien?
Ouais, pas pire, vous?
Ben oui, écoute, nous, on... top shape en bon français, comme on dit. Non, mais ça fait plaisir de t'accueillir, enfin, un de nos fidèles collaborateurs.
Notre premier collaborateur non indépendantiste.
C'est assez direct.
Écoute, faut dire ce que c'est, hein?
C'est. Non-indépendantisme, mais bon, on va pouvoir y revenir en temps et lieu. Mais j'aimerais ça que tu te présentes un peu pour les auditeurs.
Mais bonjour, en fait, moi, mon nom, c'est, comme on l'a dit, c'est Jérémy Junot. J'ai fait une élection pour le NPD dans Louis Hébert en 2019 au fédéral. Je suis un jeune homme, fille de. Ben, 23 ans, j'ai été toute ma vie, j'ai travaillé dans les entreprises. En fait, on a des entreprises familiales chez nous. Ma mère est infirmière autonome. Mon paternel, il a son entreprise dans le recyclage, puis les projets de la granulométrie, etc. Mais beaucoup plus, dans à peu près 80% dans le recyclage. Je suis étudiant à l'Université Laval en comptabilité aussi. Puis en ce moment, ben, comme mes intérêts en ce moment sont beaucoup plus axés sur la politique, je dirais, pour le moment. Puis ça risque de s'empirer dans les prochains mois, parce qu'on va se le dire, c'est comme une maladie. Une fois que tu t'impliques, tu veux plus vraiment...
La politique, je compare même pas ça à la maladie, je compare ça avec une drogue très très dure. C'est vraiment addictif.
Vous avez l'héroïne qui est considérée comme la pire au niveau de l'addiction, puis après ça, il arrive la politique.
Ah, je sais pas si la politique est pas pire, pour vrai.
Non, mais moi, dans mon intention, c'est pour dire que la politique, c'est pire.
Ah, ok, c'est vrai, c'est quand même...
On pense que c'est l'héroïne, mais la politique, c'est pire.
Non, c'est assez bien.
Une fois qu'on s'implique, on a comme une main dans l'étau.
C'est certain.
Puis c'est ça, fait que non, dans le fond, c'est ça. Puis dans mon. Ceux qui sont curieux, dans mon comté, j'étais contre le fameux Joël Lightbound.
Le tout-puissant.
Ah, ouais, quand même assez impressionnant. L'individu est très, très intéressant aussi à suivre en tant que tel. Malgré que c'est un de mes opposants, ben c'est un de mes opposants, mais honnêtement, c'est un individu très intéressant à suivre. Puis c'est un adversaire de taille.
Il y a une très bonne dialectique de ce que j'ai compris.
Il y a un excellent parler, il y a une bonne façon d'amener ses idées, il y a une bonne façon aussi de s'exprimer, quelque chose que j'ai un petit peu de difficulté dans la vie de tous les jours. Il parle à un débit très constant, je parle à un débit très rapide des fois, quand je m'emporte principalement.
Des fois.
Des fois. Surtout quand je m'emporte, en fait, ou quand un sujet me prend à cœur, mais M. Lightbound a été capable de se démarquer, surtout avec sa patience, son recul sur certaines situations. Et c'est quelqu'un aussi qui est capable de défendre, en fait, énormément c'est les accomplissements des libéraux. Même si on peut vraiment être en opposition avec le terme accomplissement, en général, c'est vrai que leur bilan n'est pas si mauvais que ça. Par contre, c'est beaucoup dans les détails qu'on va voir le diable. On s'en dit dans les détails. C'est surtout dans les détails que moi, je suis très critique. Et en général, c'est un peu mon parcours. Je m'éterniserai pas.
Je veux dire, en termes d'études, peut-être. Nous expliquer un peu c'est quoi tu fais, dans le fond.
Dans le fond, comme je disais, j'étudie en comptabilité, mais.
Ah, tu l'as dit.
Oui.
Ah,
okay.
Il l'a dit, mais. Tu sais, comptabilité, c'est comme.
C'est large comme terme.
C'est large comme terme, puis en plus, tu veux peut-être faire une maîtrise en autre chose que comptabilité, que tu nous avais déjà dit.
Je vais me spécialiser, en fait, en fiscalité. Parce qu'en réalité, une des choses que j'avais remarqué récemment, c'est à quel point, en fait, les comptables fiscalistes, on dit principalement seulement les fiscalistes, se spécialisent, oui, mais après ça, c'est souvent ceux qui peuvent s'offrir le luxe de payer un fiscaliste, c'est les gérants des entreprises. Moi, je suis plus. Quelqu'un de minimaliste, pas nécessairement minimaliste, mais j'ai pas besoin d'un énorme salaire, etc. Moi, mon but, c'est surtout d'aider le développement des petites entreprises. J'ai été élevé toute ma vie dans les petites entreprises. Celles qui contribuent le plus à la société, c'est les petites entreprises. Celles qui donnent le plus grand effort au niveau du développement des communautés, c'est les petites entreprises. Puis moi, je trouve qu'aujourd'hui, un des problèmes flagrants que les PME ont, c'est le manque de ressources face aux coûts. De certains services qu'ils devraient avoir accès, mais qu'ils n'ont pas accès en général.
Est-ce que t'as l'intention peut-être, en temps et lieu, comme Samy disait, maîtrise ou qui c'est le doctorat, de proposer un plan d'action concret pour valoriser ces PME-là?
Ben moi, si je fais une maîtrise, comme j'avais dit, ben là, ça se dispute. Là. Je veux dire, là, il faut que je m'informe si je peux faire le droit fiscal ou la comptabilité fiscale. Ça revient un peu au même, en quelque sorte, sauf qu'il y en a une que t'es un avocat fiscaliste, l'autre t'es plus un fiscaliste, tu vas chercher plus les failles. L'avocat va plus défendre, en général... Un fait plus la planification, ce qui est le comptable. L'autre fait plus l'analyse de si c'est légal ou pas. Ça, c'est plus le comptable, l'interprétation des lois, en fait. Puis, comme je dis, moi, ce que j'aimerais faire, si je ferais une maîtrise, une maîtrise, c'est surtout En fait, une réforme fiscale. Moi, je trouve que la fiscalité canadienne, québécoise aussi, les deux en quelque sorte datent d'un autre âge. C'est des fossiles, en fait, des vestiges du passé québécois et canadien, d'une époque qui n'existe malheureusement plus. Mais parce que tout était plus simple dans le temps, on s'entend. Aujourd'hui, la société, puis l'économie, la société, les entreprises, tout est rendu tellement complexe qu'on ne peut plus dépendre d'un modèle fiscal qui date des années 1967, désolé. Donc, moi, ce que je voulais proposer, c'est une grande réforme fiscale, mais le problème, c'est que pour faire la réforme, ou la bâtir, on a besoin d'ingénieurs financiers. Je veux pas les paliers d'impôts, je trouve que ça correspond plus aux réalités d'aujourd'hui. Moi, je voulais qu'on crée une règle. C'est comme une règle de maths, en fait, là, comme un graphique, etc. Sauf que ça fait en sorte que chaque dollar est imposé différemment. Donc, chaque dollar a sa valeur. Puis pour les gens, il faut trouver...
C'était impossible, dans le fond, à l'époque, qu'ils ont fait le...
Non, parce que...
Il n'y avait pas la force de calculer
ça aujourd'hui. C'est surtout le temps que ça aurait pris pour le faire.
Il y avait le calcul à bras,
dans ce exact. Mais aujourd'hui, on a des logiciels...
Ben, on rit bien, là, mais dans le documentaire de Bill Gates sur Netflix, là, il montre que dans le temps, pour faire les horaires des étudiants, c'était tout du monde qui faisait ça à bras, genre.
J'imagine.
Fait qu'il fallait tout qu'ils calculent, tout. Puis à un moment donné, avec les campus, on est devenus tellement gros, tellement spécialisés. C'était rendu impossible, fait qu'il a fallu qu'il demande à Bill Gates de programmer ça genre en 2 semaines, puis le gars s'est presque tué à le faire, hein, parce qu'il était encore un adolescent. T'sais. C'est pour montrer à quel point les choses qu'on considère comme aujourd'hui, tu sais, faire un horaire d'école, c'est rendu, tu mets ça en machine, puis il le fait seul, on s'en fout. Là. Dans ce temps-là, c'était un job, là. Mais faire ton équation aujourd'hui, tu rends ça un ordi, puis va
le faire. Oui, mais c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre de le faire, puis c'est surtout que chaque dollar devrait être imposé différemment, chaque dollar est un revenu différent.
Pis après, on va parler du candidat, on va parler de ses idées. Là.
Bonne idée. Connaître un peu, hein. Des idées, ben oui, c'est ça. Ben oui, écoute, des idées. Toi, personnellement, dans le fond, une idée là, qui te viendra à l'esprit en ce moment-là, à l'instant, que tu voudrais proposer à la population, ça serait quoi, genre?
Ben, je pense que tout le monde va le trouver fatiguant avec ça ici, là, mais c'est une réforme fiscale. Je veux dire, non, mais...
Ah ouais, non, c'est correct. Bon, c'est... Le gars de comptabilité qui défend son...
Quelque chose que les gens se rendent pas compte, c'est à quel point que tous les programmes, toute la structure de la société dépend d'un outil commun, c'est la fiscalité. Comment tu vas répartir les richesses, comment tu vas financer les programmes sociaux, comment tu vas financer les institutions publiques, comment qu'on va financer les écoles, comment qu'on va financer, etc. N'importe quel programme qu'on parle, ça se va fait tout par la fiscalité. Comment qu'on va lutter contre les inégalités, fiscalité. Comment qu'on va s'attaquer aux gens qui font de l'évasion fiscale ou encore de l'évitement fiscal. Fiscalité, c'est la base de toute une société.
Pour l'environnement aussi.
Exactement, puis c'est surtout aussi des modèles de société qu'on veut encourager, ou encore, tu sais, le monde dit que c'est du protectionnisme. En fait, je trouve que dans un monde de mondialisé, il y a un problème dans le libre-échange total, c'est qu'on perd littéralement possession de nos richesses, parce qu'en réalité, c'est rendu... Eux qui ont les plus gros portefeuilles vont investir, c'est à eux qui vont appartenir à l'entreprise, qui vont exploiter la ressource, que la ressource va appartenir après ça à l'entreprise, qui va la vendre à quelqu'un d'autre, ils vont seulement payer une royauté, etc. Un des problèmes que j'ai avec ça, c'est que c'est pas le Québécois ou les grandes richesses québécoises ou peu importe qui va avoir les moyens de financer ces projets-là. Ça va toujours être des investisseurs, principalement de l'Europe ou encore des États-Unis ou encore de la Chine.
Des fois, les États-Unis, même l'Europe est déclassée par les Américains.
Oui, les Américains et la Chine. C'est surtout... Malgré que Cisco, ça a été beaucoup des Allemands, par contre, là, au départ, là, mais ça reste que...
Ils ont leur force, mais je veux dire, tu regardes les compagnies en bourse les plus cotées puis des choses comme ça,
c'est tout les compagnies surtout les plus grandes richesses du monde. Pour l'instant, sont encore aux États-Unis, mais je pense que c'est une question d'année que ça soit rendu en Chine, parce que le deuxième pays avec le plus de milliardaires au monde, c'est la Chine.
Mais toi, dans le fond, avec ta réforme de la fiscalité, c'est juste une excuse pour faire plein de réformes en arrière. Ta réforme de la fiscalité, ça peut être la fondation qui te permet... Après ça, de mettre les autres briques.
Là. C'est la base d'une maison, littéralement. Mais je veux dire, à un certain stade, il y a des incohérences au niveau de la fiscalité, autant canadienne que québécoise. C'est-à-dire, tu as un seuil de pauvreté ultime. C'est en bas de 22 000 et moins, tu es considéré comme pauvre. Ah, bon, quand même ben... très pauvre.
Mais bon, ça
c'est comme un des étudiants.
Content de savoir que je suis pauvre.
22 000, quand tu es étudiant, tu es riche.
Ben oui,
mais ça. Tu manges autre chose que des ramen, c'est bien.
Mais
pour quelqu'un, on s'entend. Quelqu'un qui a son R5, qui travaille 40 heures par semaine, puis qui a des enfants à 22 000, tu vas pas
le dire. Non, c'est sûr. Mais pour être franc, parlons-en 2 minutes, si vous me le permettez. On parle d'un seuil de pauvreté, 22 000 $. Personnellement, je fais 12 000 par année. Là.
J'en fais 31, mais je travaille beaucoup. Je travaille 80
ouais.
l'été.
Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, je veux dire. Puis ce que je trouve débile là-dedans, c'est que t'as ce qu'on appelle des présébos, etc.
Ah oui, moi, ils me donnent 47 piastres.
Mais moi, je n'y ai pas accès. Puis tu sais, il y a un cercle vicieux là-dedans. C'est au départ, j'y avais accès. Puis moi, je me disais, hey, je vais travailler, tu sais, je vais être capable. Puis le moment que tu travailles, puis tu fais moins d'un peu trop d'argent, tu perds la totalité de tes bourses.
C'est ça.
Ouais, ouais,
mon,
en fait, c'est un peu un concept que Milton Friedman appelait la trappe à bien-être social, là, pour paraphraser. C'est une welfare trap, là. Ça t'encourage à rester pauvre pour recevoir des bénéfices. Ça.
Ben, c'est surtout qu'en fait, je veux dire, comme j'ai dit, faut que... Moi, mon opinion étant que faudrait au moins que tu couvres les frais de scolarité avec des prêts sans intérêt. Ça l'aiderait énormément. Puis je veux dire, à un certain stade, pour un État, ça, je suis pas d'accord pour une gratuité. Moi, honnêtement, il y a un concept qui est pratiquement pas applicable, mais que je défends beaucoup, c'est la méritocratie. C'est-à-dire, moi, si tes frais sont couverts, okay, mettons, là, dans un monde idéal, que tu as des prêts sans intérêt, le temps que tu es aux études, ça couvre ton logement, ça couvre tes frais universitaires, dans le fond. Mais le reste, ta bouffe, tout, tu t'arranges. Je veux dire, faut que tu travailles tout dans le
monde. Oui,
bien, puis qu'à la fin de l'année, tu as des excellents scores, parce que tu as pratiquement juste besoin de travailler l'été, parce que tu es super correct pour le reste. Je vois pas pourquoi je te transformerais pas une partie de tes prêts en bourse.
Incitatif à performance, un peu.
Ben, c'est surtout que le seul stress que t'as, c'est plus de vivre pis d'avoir des résultats. C'est seulement d'avoir des résultats. Mais si t'as accès à tous ces prêts-là sans intérêt, puis à la fin de l'année, t'as des résultats plus ou moins excellents parce que ça te tentait pas ou whatever. Ben, tant que t'as des problèmes, on s'entend qu'il y a du cas par cas, là, c'est justifiable.
Ouais,
là.
C'est que c'est dur avec une grosse machine gouvernementale comme ça, tu
sais. Ben, oui, quand même. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est quand même assez difficile à appliquer, mais mettons que tu vois que t'as des dés ou ben, ça te tentait pas, tu t'es pas investi dans tes études. Excuse-moi, je comprends pas pourquoi je te donnerais des bourses. Je veux t'emmener, il fallait que tu te forces, là. Je vois, tu sais, ça, c'est des cas par cas, là. C'est pas une majorité, mais j'ai connu des gens qui avaient pas besoin de prêts et bourses, qui ont eu des prêts et bourses, sont allés dans le sud. Puis t'as des gens comme moi qui travaillent pour survivre. Là. Pendant les études, que ça nuit à leur...
C'est le bon terme, hein? Survivre.
Oui, mais ça nuit ouais, à nos études. Bon. Veux pas. Moi, j'ai réussi à avoir des bons résultats, tu sais. J'ai réussi à avoir des B et des A, mais j'aurais jamais de A+, parce que je n'ai pas le temps ni l'argent pour étudier au-dessus de 60 heures semaine dans mes programmes d'études, quand en réalité, je suis pas ni plus à vouloir survivre qu'à vouloir étudier. C'est un des stress majeurs que les étudiants ont, mais ça nuit énormément, en fait, aux étudiants. Ça les rend précaires. Ça rend leur situation précaire. Il y a des gens qui ont des échecs à cause de ça, parce que là, il y a des gens qui n'ont aucun soutien. Il y a des gens que... Moi, ce qui me fait encore plus rire, il y a des gens là que leurs parents... mettons, leurs parents sont séparés. Un des parents est super riche, l'autre parent est super pauvre. Mais ils peuvent se mettre au nom du parent super pauvre. Le parent super riche peut quand même donner énormément d'argent à cet individu-là, mais lui qui est au nom du parent super pauvre, il reçoit énormément d'argent du gouvernement, ce qui est totalement normal. Sachant que si moi, mes parents, vu qu'il y en a un qui a des. Vu que mon père a une entreprise corporative, ma mère est infirmière autonome, ben là, vu juste avec le titre du que tu as une entreprise, ben t'as plus d'accès au prêts et bourses en tant que tel.
Ah ouais.
Non. Ben, fait que c'est quelque chose que, honnêtement, ça me choque, puis je reste tout le temps bête par rapport à ça, puis je suis peut-être agressif, mais c'est quand que les gens me disent, ouais, mais tu sais, maintenant c'est un choix. Regarde, si on résume l'entièreté d'une vie sur un choix, sans comprendre les contextes, etc., ça devient difficile. C'est surtout, comme je dis, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on... Surtout, l'éducation, ce qui est étonnant, si on veut vraiment garder notre culture, si on veut vraiment avoir une qualité de français irréprochable, si on veut vraiment que le monde s'implique plus, si on veut vraiment aussi garder une fierté québécoise... Si on a un certain
prestige pour attirer les gens à l'apprendre, le français.
Oui, si on veut garder une fierté québécoise, si on veut garder aussi une fierté nationale, l'éducation, c'est un must. C'est même pas une question. Puis savoir que moi, j'ai beaucoup d'amis, puis même si les gens s'en rendent pas compte qu'on est pogné à la gorge, au moment où on décide d'aller à l'université, puis que moi, une des choses qui me frustre le plus dans mon programme, c'est que la raison pourquoi il est debout, c'est à cause des investissements privés, ça me choque. Je comprends pas qu'on ait tellement pas d'investissements publics dans l'université versus le privé, que en fait, oui, 80% de l'université est financée par le public, mais je veux dire, tout ce qui est peut sembler subtil pour les gens, mais qu'en fait, est ultra important pour l'université puis le développement des étudiants, est financé par le privé, je trouve ça aberrant. Ça n'a aucun sens. Puis après ça, il y a des bourses qui se donnent, mais des bourses spécifiques à des gens spécifiques par rapport à cause du privé. T'sais, autant que le monde va dire, ouais, mais le privé va décider de qu'est-ce qui est important puis pas pour eux. Je veux dire, ouais, mais quand c'est en tout cas le privé décide quel job est important puis quel job l'est pas, on scrape, on crache sur certains développement qu'on pourrait avoir, on crache sur des programmes qui pourraient avoir une importance capitale dans l'avenir, on crache sur des génies peut-être qu'on ne sait même pas, parce qu'on laisse le privé décider ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. c'est une des endroits où j'ai de la difficulté avec les privés malgré que je suis pour le privé. Mais tout pour
dire. Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, c'est sûr que là, toi, tu te présentes pour être au fédéral pour l'instant. Est-ce qu'il y a une façon pour toi, mettons, est-ce que tu penses à un revenu universel garanti? Est-ce que tu penses à une bonification des transferts fédéraux? Tu veux-tu une espèce de taxe négative?
Ou... Ben, moi, dans mon programme.
Une réduction de l'impôt sur la pauvreté ou jusqu'au seuil de pauvreté?
Dans mon programme, en premier lieu, je voulais baisser l'impôt fédéral puis l'appliquer seulement au niveau du seuil de pauvreté. Quand on parlait de seuil de pauvreté, c'est que ça permet, en fait, je trouve ça totalement improductif, imposer les gens qui sont dans le seuil de pauvreté pour après ça leur donner de l'argent.
Ouais, c'est ça.
Je veux dire, c'est un petit peu une joke.
C'est de créer la bureaucratie pour qu'elle se nourrisse elle-même.
Ouais, ben, c'est que, regarde, on s'est entendu que. Quand les gens sont dans le seuil de pauvreté, pourquoi ils les imposent? Ben là, c'est sûr que le monde va dire, ouais, mais c'est parce qu'à court terme, le gouvernement peut prendre plus d'argent, puis avec cet argent-là, faire plus de projets sur le coup, mais après ça va. Tu vois, mais l'argent que ça te coûte, gérer cette bureaucratie-là.
Ça coûte de l'argent de déplacer de l'argent.
Oui, surtout qu'après ça, c'est décider qui a accès à quoi. Puis, tu sais, une joke qui est vraiment cocasse, puis quand même assez répandue au niveau des CPA, puis des comptables en général aussi, mais surtout dans les comptables professionnels agréés, va faire des impôts par un CPA. Va faire tes impôts par 5 CPA, en fait. Tu vas avoir 5 retours d'impôts différents avec 5 pratiques différentes, avec 5 façons de faire, puis 5 sortes de crédits différents. Parce qu'il y a tellement de crédits casteurs, il y a tellement de... Tu sais, il y a beaucoup de façons d'aller chercher de l'argent pour les particuliers qu'on n'a même pas connaissance, parce que juste la fiscalité est rendue assez crasse, désolé du terme, mais c'est ça pareil. C'est rendu qu'on a accès à des services qu'on ne sait même pas qu'on a accès. Puis ça, c'est une façon, en fait, de garder l'argent au Canada ou au Québec, dépendant de quel gouvernement décide de bloquer. C'est que tu crées des services que la population n'a même pas connaissance d'avoir. Fait que là, toi, tu peux te cacher en disant, ouais, mais vous y avez accès, vous avez juste à le prendre, mais s'ils le savent pas.
Ouais, non.
Si la majorité des comptables sont comme, OK, il y a tellement de services différents, qu'est-ce que je choisis, puis finalement, ils prennent pas la totalité de ce qu'ils pourraient, mais c'est une façon de garder de l'argent, là, pour un gouvernement, puis de bien paraître pareil.
Ça serait quoi, dans le fond, le service le plus important pour toi?
Mais tu sais, comme je disais, moi, là, au niveau fédéral, un des problèmes, une des affaires complexes qu'il faut comprendre, c'est que je suis au fédéral pour finir au provincial. Absolument, c'est le contraire que le monde font. Mais les fonds provinciaux finissent au fédéral, mais moi, c'est le contraire. Je veux dire, je vois pas l'intérêt d'être nommé piqué au provincial si je suis limité à cause du fédéral. Ce que je veux faire au fédéral, la première chose qu'on devrait faire, si on veut une plateforme ou un plan qui va être fonctionnel, c'est réduire l'impôt fédéral. Selon mon idée, c'était quand même l'anéantir, en fait, d'avoir juste l'impôt provincial puis une taxe fédérale, c'est revenu provincial.
Est-ce que tu penses que les provinces pourraient finir par faire de l'évasion fiscale? Parce que, tu sais, si les individus et les compagnies le font, est-ce qu'une une province, je sais pas, l'île du Prince-Édouard, on est vraiment cassé cette année, on pourrait juste cooker nos livres, tu sais, puis...
Ben, en fait, parce que si tu, ça vraiment... tu peux pas réellement...
C'est le bout de la merde, là,
soyons honnêtes. Tu peux pas réellement, puis je veux dire, c'est rendu là si tu fais de l'évasion fiscale, parce que là, tu mets tes propres citoyens sur ta situation. Hey,
ça serait un méchant scandale.
Ben, ça serait pas juste un scandale, ça serait littéralement ouvrir la porte à toute forme de radicaux possibles, que ce soit de gauche ou de droite, parce que les gens vont se tanner de... Tu sais, je veux dire, triche un peu trop. Va trop loin, c'est là ce que tu ouvres la porte à toute forme de parti radical ou encore d'idéaux radicaux qui sont peut-être pas applicables sur le coup ou encore qu'ils sont, mais à certains coûts un petit peu trop élevés. Mais c'est surtout de. Moi, c'était changer le niveau d'imposition, c'était aussi le revenu minimum garanti. Il y a eu des études par rapport au revenu minimum garanti, puis Guy Caron en avait parlé aussi.
Il y a fait des conférences là-dessus.
Okay. Ça se résumerait à quoi, dans le fond?
Dans le fond, c'est que tu as un revenu garanti, peu importe t'es qui. D'un certain montant. On pourrait parler, mettons, 10 000 $ mettons 1 000 $ par mois, 12 000 $ par année. Mais peu importe, t'es qui, t'as beau être super riche, t'as 12 000 $ par année. Mais là, ils vont dire, ouais, mais il est super riche, il n'en a pas de besoin. Mais je dis, ouais, mais c'est parce que nous, ils vont le payer avec les impôts. Puis si ils ont 10 000 ou 12 000 de plus, ils vont l'investir quelque part dans un projet. Par contre, pourquoi que la réforme fiscale, est intéressante, c'est comment que tu vas gérer cet investissement-là. Je veux dire, moi, je vois pas l'intérêt de donner un avantage sur 15 sur capital imposable à quelqu'un qui investit à l'étranger. Mais si tu investis au Québec, pour le gouvernement Québec ou Canada, pour le gouvernement canadien.
Ça, juste pour te poser la question, est-ce que selon les accords qu'on a signés, l'ACEUM, l'ALENA puis tout ça, est-ce que c'est légal ça?
C'est applicable seul, parce que c'est seulement les investisseurs canadiens que tu touches.
Les traités internationaux sont assez contraignants.
Oui, mais je veux dire, à un moment donné, c'est aussi de se réaliser que c'était en l'intérêt de qui ça s'est signé ces traités-là? L'intérêt des corporations et des gros portefeuilles, là, c'est qui font les transferts de capitaux?
Techniquement, si tu regardes la théorie économique derrière le libre-échange.
Dominique, nous, le terme théorique.
Nous, les citoyens, on est ceux qui en bénéficient. Mais par contre, je suis en train de faire un travail sur un article qui s'appelle Paradoxe du libre-échange de Alan S. Blinder, que vous pourrez aller trouver dans Foreign Affairs. Là, pas ça le numéro, ce serait une autre. Mais... Et lui, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, c'est vrai théoriquement. En pratique aussi. Sauf que puisque les gains de nous, les citoyens, se font de manière marginale, c'est-à-dire on paye moins sur nos produits, mais tu sais, je veux dire, paye moins 2$ à chaque fois sur plein d'items, tu t'en rends pas compte. Quelqu'un qui perd sa job, une compagnie qui fait 15 milliards de plus par année puis qui fait de l'évasion fiscale, ça c'est concret puis tu le vois énormément. C'est-à-dire, tu sais, quand on prend la gestion de l'offre par exemple, tu sais, est-ce que t'es pour la gestion de l'offre?
Oui, à un certain degré.
J'aimerais la réformer peut-être.
On avait parlé justement dans un de mes programmes, j'avais eu 100% ce programme. On avait l'hypothèse qu'il fallait faire sur la gestion de l'offre, si tu peux me donner deux petites minutes. C'était soit qu'on annule la gestion de l'offre puis qu'on va dans un marché privé, soit qu'on modernise ou on garde la gestion de l'offre. Moi, j'avais dit on fait les deux. Mais en fait, c'est soit on s'adapte, en fait, le vrai terme, soit qu'on la garde. Moi, j'ai dit on fait les deux. Mais c'est pourquoi? C'est pas parce qu'on a une gestion de l'offre qu'on ça nous empêche de s'adapter. J'avais mis un programme justement dans mon cours, une thèse sur le fait que on devrait garder la gestion de l'offre, mais on devrait quand même créer, parce qu'un des principes fondamentaux, c'est qu'il y a la gestion de l'offre, ça reste des parts de marché. Mm-hmm. J'ai dit, certains producteurs agricoles qui ont des voisins devraient fusionner leurs parts de marché pour créer une association en quelque sorte.
Des espèces de coopératives.
Oui, mais ça augmente ta quantité de production, ça augmente aussi ta rentabilité.
Des économies d'échelle
dans ta gestion. Exactement. Mais tu gardes ta part de marché pareil, puis tu restes plus compétitif, le client est
gagnant. T'as pas peur qu'il y ait une certaine densification des fermes comme on voit aux États-Unis qui ça fait de l'élevage.
Non, mais il faut mettre une certaine limite. Mais je veux dire, regarde, va au lac Saint-Jean, t'as 15 fermes une à côté de l'autre qui ont peut-être 100 têtes chacun ou 1000 têtes des fois, dépendant de Normandie, il y en a une. Je veux dire, ces 15 fermes-là, tu pourrais les mettre ensemble, garder le terrain pareil. Là.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça l'ouvre pas comme la porte à plus de lobby, ça.
Mais en fait, à un certain stade, il faut décider ce qu'on veut aussi.
On s'entend que ça rouvre la porte à certains lobbies. Le lobby de la gestion de l'œuf puis de l'UPA est quand même
très bon. Ah, mais non, puis il est bon.
C'est un bon lobby. Je veux pas m'attirer les foudres de M. Christian Hébert, que j'aime beaucoup. Là,
le problème avec les lobbies.
C'est le lobby du lait fort.
Oui, mais le lobby, le problème, c'est pas le. Faut faire la différence entre. Les lobbyistes, les compagnies. Un groupe de lobbyistes va défendre un intérêt.
Ouais. Techniquement, nous trois, on pourrait être
des lobbyistes. Souvent, les carrières des politiciens, une fois qu'ils se terminent, ils virent lobbyistes. Ironiquement, l'ancienne députée de Saguenay est devenue une porte-parole pour les groupes pétroliers.
Qui, ça?
Misère. Ouais. Je sais pas de qui tu parles, mais je sais
de qui tu parles. Nom, mais j'ai un problème avec les noms, mais elle était venue, Catherine, je pense, quelque chose. Elle était venue à Davie, en fait, avec nous, pendant l'élection, puis pour se recycler, elle est devenue porte-parole pour certains groupes avec des affiliations pétrolières.
Probablement qu'elle emploie le côté environnemental de la chose. Là,
mais je veux dire, à quel point, honnêtement, je trouve que c'est un manque de constance. C'est un manque d'intégrité aussi.
Mais donc, toi, dans ta réforme, ce que tu espérais de ta réforme de la gestion de l'offre, c'est plus d'efficacité, mais aussi que ça coûte moins cher aux consommateurs?
Oui, mais c'est surtout de protéger les fermes québécoises. Il y a un fait que, la façon qu'on fonctionne à cette heure, qu'on laisse tout le monde avec des petits groupes, il y a un moyen d'avoir un énorme champ sans que ce soit dégueulasse.
Mm-hmm.
Là, ce qu'on a, c'est plein de petits champs, puis le pire, c'est que c'est dur à surveiller.
Un peu les terres communes, tu sais, comme. Mais ça, par contre, il faut se méfier avec les terres communes. Il y a quelque chose en économie qu'on appelle la tragédie des biens communs. Hein. Quand tu as des terres communes, comme ça, mettons en Angleterre, il y avait ce que tu appelais les commons, où ce que tu peux faire ton paître tes vaches et tout ça. Mais toi, quand tu achètes une nouvelle vache, tu as tout intérêt à en acheter une autre. Mais ton voisin aussi, parce que c'est pas directement ta terre que tu fais, que l'animal il va
Côté
dessus. Sauf qu'à la finale, au final, toutes ces personnes-là prennent une décision qui est raisonnable économiquement, personnellement, dans leur intérêt individuel. Et là, selon la théorie de Smith à l'époque, c'est pour ça que c'était défendu qu'il avait le droit de faire ça, tout ça, c'était une liberté individuelle. Parce que la main invisible du marché fait que tes décisions individuelles profitent à la collectivité. Malheureusement, dans une situation de bien commun, effectivement, ta décision individuelle, elle se défend. C'est logique, économiquement, c'est logique, de façon morale. Mais quand tu regardes les résultats dans la vraie vie, il y a un épuisement de la. On le voit avec les océans en ce moment. Tout le monde a intérêt à pêcher plus. Tous les pays ont intérêt à pêcher plus, c'est leur ressource, tout ça. C'est ouvert, c'est bar open, personne ne peut les empêcher. Mais qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec un épuisement des ressources.
Ouais, mais
parce qu'il y a incitation à surconsommer.
C'est aussi à faire attention, comme je disais, ça prend une réglementation. Tu sais. Je veux dire, aux États-Unis, il y a une mode en ce moment, surtout avec Trump, de déréglementer les marchés. C'était la pire erreur qu'on a faite depuis les années 80.
Clinton puis Bush l'avaient fait, ça a mené à 2008.
Reagan aussi avait commencé le sujet, il n'a pas eu le temps de clore par contre. Puis en fait, ils ont eu le temps de clore en 2008. Puis encore aujourd'hui, ils n'ont pas appris parce qu'ils déréglementent encore plus les marchés. Je veux dire, ça prend des règles gouvernementales, pas pour faire chier, excuse-moi du terme, mais faire chier, c'est pour un développement ensemble qui a de l'allure. Un développement qui est...
Fait que toi, t'es dans le fond, puis après ça, on va passer à ton idée de fiscalité. De décentralisation. Oui. Non, parce que la fiscalité, on en a quand même parlé pas mal, mais... Puis on peut en parler une autre fois, on va te réinviter. Okay? Tu vas pouvoir écrire là-dessus quand la tribune va être prête. Tu vas pouvoir écrire comme tu veux. Mais on vous invitera à lire, d'ailleurs. Humble plug. Hein? Mais dans le fond, avant qu'on passe à la décentralisation, moi, j'avais une question pour toi, puis là, c'est quand même important. Le NPD est quand même souvent reconnu comme un parti vraiment à gauche, souvent hostile aux compagnies privées. Mais toi, quand on te parle, souvent, t'es un peu le gauchiste étrange qui est comme « Mais non, mais les compagnies privées, puis les PME, c'est pas mal, faut les encourager. L'investissement privé, c'est important, faut juste le diriger vers le bon endroit. »
C'est que moi, je veux dire, comme j'ai dit, que ce soit... Regarde, on va parler de la société communiste, de l'URSS, on va parler de la société communiste de Chine, on va parler des sociétés capitalistes qu'on a aujourd'hui. Ils ont toutes de quoi de commun.
Ils n'ont pas marché.
Non, ils n'ont pas marché du tout. Il y a eu aussi de quoi de commun du genre... Que ça ait été capitaliste, que ça ait été communiste, que ce soit la Chine communiste ou encore l'URSS, je veux dire, le développement de la Russie était en compétition avec l'international. Ils ont aussi pollué... C'est pas un système économique qui va changer la donne. C'est pas un changement de système, c'est un changement des mentalités qui va changer la donne. C'est pas le capitaliste qui a créé l'investisseur méchant.
Mais là, dans le fond, tu... Mettons qu'on revient à ça, tu mettrais pas économie et écologie un contre l'autre.
Non, je les mettrais ensemble. C'est surtout que il y a des gens qui disent c'est le capitaliste qui a créé ça. Je dis, excuse-moi, mais la société communiste, c'était pas le capitaliste qui a créé ça, là.
Bon, la société féodale avant faisait beaucoup de merde aussi.
Oui, puis il y avait de l'esclavagisme, etc. Puis je veux dire, regarde, à un certain stade, moi, je veux dire, comme j'ai dit, c'est une question de mentir. Pourquoi dans les pays scandinaves, ça marche si bien pourtant? Puis personne chiale contre les pays scandinaves. On chiale contre le capitalisme, mais quand on parle des pays scandinaves, c'est les pays socialistes qui ont quand même un système capitaliste aussi.
Oui, puis ils ont une grosse...
Ils ont juste des bonnes règles, une bonne mentalité, un système éducatif incroyable. L'éducation aide énormément
aux mentalités. Une belle fiscalité aussi.
Oui, mais je veux dire, c'est bien encadré. Ils ont besoin d'encadrement. Une compagnie, c'est comme les gens qui disent on devrait laisser le libre marché décider, puis c'est vraiment un gros néolibéral. Moi, je suis totalement contre pour une raison. De un, c'est sauvage. De deux, c'est si le gouvernement ne gère pas le marché, parce que le marché, en passant, c'est pas une fin. C'est pas un organisme qu'on dépend de lui. C'est un outil. Si on laisse le marché décider de tout, c'est pas à dire, mais c'est les compagnies qui vont décider du marché. C'est eux qui vont décider des prix. Il y a eu de la collusion. En collusion, c'est quand même, c'est complètement...
Mais ça, quelqu'un de... Là, je vais me faire l'avocat du diable ici, parce que, bon, en étudiant là-dedans, on voit les théories économiques et tout ça. Techniquement, les compagnies, c'est pas eux qui décident des prix, c'est le consommateur. La raison pourquoi il y a autant de... Là, je prends un argument, parce que je m'assieds souvent avec des gens d'école économique autrichienne, qui eux autres, c'est vraiment libertarien, puis l'État, c'est le mal. La raison pourquoi les compagnies peuvent être preneuse de prix comme ça, puis décider du prix, c'est parce que l'État a régulé tellement que maintenant, il n'y a plus de compétition possible, puis que ça crée des oligopoles.
Non, je dirais plus que, regarde, on peut parler de... dans des endroits que c'était pas très régularisé, même dans les années 70, je veux dire, regarde, on va parler des States. Je veux dire, c'est un des endroits dans le monde où tu as moins de règles, je pense, versus au niveau du marché. Puis, regarde, t'as quand même juste Coca-Cola, choix du président. C'est toutes des grosses compagnies, puis je veux dire, c'est pratiquement tout le même prix.
C'est l'empire des oligopoles.
Oui, mais ça n'a pas rapport avec les interventions de l'État. Puis, tu sais, il y a du monde qui vont se battre sur eux. Ça, ce qui m'enrage avec cette vision-là, c'est que c'est purement théorique. Il n'y a rien de pratique. La théorie, c'est beau, mais en pratique, ça fonctionne jamais. Pourquoi qu'on se base sur des théories quand on peut se baser sur le comportement humain? Je veux dire, ça, c'est ça qui me fait rire. On rit des sciences sociales, mais la psychologie de l'investisseur, la psychologie du consommateur, la psychologie...
On voit aussi l'économie comportementale maintenant qui se développe aussi.
Mais c'est quelque chose qu'on devrait mettre beaucoup
plus... Il y a un running gag en économie que c'est plus des économistes qui gagnent les prix Nobel d'économie, c'est des psychologues.
mais c'est ça pareil. Je veux dire, on devrait mettre beaucoup plus d'emphase sur les comportements par rapport à l'économie. Parce que l'économie, c'est un outil. Puis tu sais, souvent, ils disent « Ah, mais c'est l'intervention de l'État, c'est une c'est plate, mais souvent, les gens qui disent ça sont pas honnêtes. Je veux dire, on le sait tous que des grandes compagnies peuvent acheter... Regarde, on parle d'Amazon. C'est l'intervention de l'État. Excuse-moi, c'est plus Amazon qui intervient sur l'État, à un certain degré. Je veux dire, les compagnies pétrolières de l'Ouest. C'est pas l'État qui intervient. À un certain stade, on peut avoir...
Quand même, oui. Je veux dire, comment est-ce que tu disais l'autre fois? Parce que toi, dans le fond, j'imagine dans tes idées, tu coupes les subventions au pétrole tout de suite.
Ben, plus ou moins. Je te dirais que j'ai une idée de passionnelle qui est subjective de les couper parce que ça n'a juste pas de sens. Mais j'ai une idée aussi réaliste qui dit on peut pas faire ça. Faut aussi que comprendre que si on coupe les subventions puis tout, ces gens-là vont juste pas comprendre ce qui s'est passé puis ils vont juste rester dans
la misère économique aussi.
Puis ils vont juste rester dans l'idée que c'est de notre faute, fait que c'est pas de la faute du pétrole. Quand que si on retire les fonds fédéraux du pourquoi que l'industrie pétrolière existe encore aujourd'hui, en réalité, si on appliquerait l'idée parce que l'Alberta puis les restes sont beaucoup plus libre-marché qu'ils disent, si t'enlèves les interventions gouvernementales, excuse-moi, l'Alberta, ça plante. On subventionne énormément le pétrole qu'on ne devrait jamais subventionner. Puis ça a rendu qu'on a fait, comme je disais plus tôt auparavant, des BS corporatifs. Je veux dire, c'est ça pareil. Puis on parle de libre-marché, mais les gens qui prônent plus le libre-marché, c'est eux qui interviennent le plus. Pour les compagnies. Mais je veux dire, mettons que tu as un État totalement décentralisé. Il n'y a rien qui empêche cet État-là totalement décentralisé de se recentraliser un jour. C'est comme une entreprise. Dans des cas de crise, il se centralise. Dans des cas de prospérité, il se décentralise. Théoriquement. Mm-hmm. Mais les gouvernements, avant, ils étaient décentralisés. Mais
il y a eu les guerres mondiales,
se sont centralisés. Je veux dire, c'est normal. C'est un comportement normal. Mais il n'y a rien qui garantit que le moment qu'ils ne se recentralisent pas, c'est pas dans l'intérêt d'une entreprise. Je veux dire, comme j'ai dit plus tôt, les politiciens ont un background. Ils ont une histoire. Si on travaille toute leur vie dans le privé et qu'ils croient seulement au privé, comme on a vu Reagan faire, comme on a vu la famille Bush faire, comme on a vu aussi Kennedy, qui était il était quand même issu des grosses, d'une famille de
pétrolières. Oui, avec des liens louches avec la mafia aussi, là.
Mais si on retourne dans le passé, puis de ces gens-là, puis on peut comprendre que même un État totalement le plus décentralisé possible, il n'y a rien qui l'empêche de se recentraliser, puis il n'y a rien qui empêche une compagnie de financer la campagne, surtout aux États-Unis, d'un candidat qui va recentraliser l'État, mais parce qu'il se fait financer par une compagnie qui a intérêt à... Fait que tous les gens qui défendent en général l'idée que le libre-marché fonctionne, c'est des gens qu'eux-mêmes interviennent avec des fonds pour centraliser le marché en leur faveur. Puis ils disent après ça que c'est le libre-marché. Comme en Alberta, puis dans l'Ouest, ils disent que c'est le libre-marché quand il n'y a rien de libre là-bas. C'est ultra... Il y a énormément d'interventions. Laisse les libres marchés faire, comme ils diraient. Il y a énormément d'industries aux États-Unis qui ne fonctionneraient pas aujourd'hui.
Ah ben là, j'ai appris des choses.
Ça en fait beaucoup à...
Non, mais c'est parce que c'est un domaine que, en fait, j'y connais à peu près ou presque rien. Donc, moi, je suis bien content de
vous entendre parler de ça. On va prendre un cours d'histoire économique parce que tu aimerais vraiment ça.
Ben, écoute, probablement que oui. J'ai fait un cours d'histoire. D'économie globale au cégep, là,
ouais,
là,
ça wow,
la grosse affaire. Là. Non, mais j'en doute bien, là, à vous entendre parler, c'est clair que j'ai pas appris grand-chose au final, mais écoute, c'est intéressant, mais moi, c'est sûr que, bon, veux pas, je suis historien d'en devenir, puis je vous entends parler, bon, ça s'est déjà vu quand même, pas de façon aussi extrapolée qu'aujourd'hui, mais ça s'est quand même vu des situations comme celle que vous présentez dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a pas nécessairement fonctionné. Bon, j'ai pas d'exemple à donner de façon concrète à l'heure actuelle, mais c'est intéressant à vous entendre parler. Je veux dire, je peux pas rajouter là-dessus malheureusement là, à cause de mes connaissances, mais
c'est tout pour revenir que dans un Canada. Pour venir au sujet de base.
Ben non, mais le sujet c'était tes idées.
Là. Ouais, mais c'est l'idée d'un Canada. Sans, comme on le voit là, je suis pas d'accord. Parce que souvent, comme on l'a dit plus tôt en fait, quand on parlait d'intervention de l'État, l'Alberta prend un libre marché, mais ils ont un intérêt à ce que le Canada reste centralisé, ils ont énormément de financement.
Ah, tant que ça, hein?
Oui, mais on parle de 10 milliards par année. Là, on parle pas de...
Ils chiant, c'est la péréquation, mais t'as...
Mettons que tu mettrais les subventions comme des péréquations, je suis pas mal sûr qu'ils bosseraient un méchant bout. Je veux dire, on parle de 10 milliards par année, mais si on prend juste le pipeline... Finalement, là, sont à 12
milliards.
Effectivement.
Fait que là,
Frontier Tech, c'est un autre beurre aussi.
Puis ça, on n'en parle pas, par contre. Mais tu sais, quand le Québec se développe avec des projets incroyables comme des mines, whatever, on n'en donne pas.
On a poursuivi une scène pour la baie James.
La ligne hydroélectrique qui est en voie de se construire jusqu'à New York.
Moi, ouais, ça, c'est si le Maine ne la barre pas encore, une maudite fois.
Effectivement.
Mais
tu sais, je veux dire, il y a Musket Falls aussi, on les a donné l'argent, mais au Québec, on n'a rien donné pour la baie James, on n'a rien donné pour les éoliennes. T'sais.
C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne que le Québec, dans un Canada uni, si on veut garder un Canada entre guillemets uni, il va absolument falloir qu'on enlève les pouvoirs d'Ottawa et ses provinces. C'est un must. C'est même pas une question. Puis honnêtement, je pense qu'en ce moment, souvent le monde dit ça, c'est too much. Moi, je suis autonomiste. Puis je pense qu'en fait, on vit l'époque où ce qu'on peut voir ce mouvement-là venir. Où ce que je veux en venir, c'est qu'on voit dans l'Alberta, il y a le Wixit.
Oui.
Le Wixit,
c'est un parti, ça, ou...
Non, c'est un mouvement.
C'est un mouvement. Fait par le Wikébec de Catherine, je pense.
C'est le Wixit fait par Jason Kenney, qui est un vraiment mauvais perdant. Je veux dire, la démocratie parle, puis monsieur est pas content. C'est quasiment ça, pour vrai, là. Je veux dire, amener la démocratie, ça fait pas plaisir à tout le monde, c'est normal. Je veux dire, prochaine fois, tu vas gagner, si tu gagnes. J'espère pas, parce que c'est pas le bon personnage, en tout cas. C'est pas... je veux dire, il veut surtout des partis qui prônent ses intérêts à lui.
Ouais, là. Ben, il y a ça. Là.
Ce qui est quand même assez...
Il s'est présenté au Québec comme étant un ami, puis tout ça, après avoir...
Récemment,
après avoir,
Il a fait du Québec bashing. Parce que il a dit qu'il s'en irait, il quitterait le Canada, mais comme mais j'ai
parce
dit...
Parce que ça, c'est parce que là, ce qui est triste, c'est que les gens ont pas entendu le dernier balado. Où ce que Jérémy avait littéralement prédit que Jason Kenney allait faire ça. Il disait, le Wexit puis Jason Kenney, c'est du bluff. Il va revenir en rampant. Je pense que deux jours après, il passait à Mario Dumont, puis il faisait exactement ça.
Non, mais c'est...
la grosse ironie, pareil.
Non, et mais c'est en politique, il y a un talent qu'il faut avoir, puis je pense que ici, tout le monde peut l'avoir, en quelque sorte. Puis je pense qu'en fait, tout le monde ici l'a. C'est savoir percevoir les situations, puis les interpréter. Puis le Wixit, c'est une solution non seulement pas viable, mais qui n'a aucun intérêt pour l'Alberta qui vit ses fonds fédéraux. Je veux dire, c'est du bluff. S'ils font un Wixit, on s'entend que la situation d'Alberta est très précaire. En ce moment, ils sont en crise. Ils ont une crise de logement, ils ont une crise économique interne, c'est plus une récession qu'ils appellent ça. Mais ça va pas bien. Malgré que les compagnies, depuis un bout, ils déclarent des profits records. C'est, il y a deux ans, depuis la défaite du NPD, sont tombés en... Il y a une BD en passant d'Alberta, c'est pour ça que je dis ça.
Effectivement, c'est encore l'opposition officielle.
Oui, puis je pense que c'est eux qui risquent de gagner la prochaine.
Ils ont des bonnes chances de gagner, oui. Selon certains sondages, je gagne.
Puis parce que là, il y a eu une chute immense au niveau de la crédibilité des conservateurs. Ils ont gagné, en fait, après 40 ans de conservatisme. Ils ont gagné parce que c'était une grosse façon de dire « fuck you » en quelque sorte aux conservateurs. Ils ont réélu après les conservateurs, puis... L'NPD qui avait stabilisé le budget avec des idées intelligentes qu'on a déjà ici. En fait, c'est pas vraiment intelligent, c'est plus des idées normales, comme des taxes provinciales, etc., ou augmenter l'impôt, etc. Mais ça n'a pas été populaire là-bas. Puis là, c'est Kenny qui a dit on va l'amener à l'Alberta, make Alberta great again. Maga! mais ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un déficit immense la première année. Là, la seule raison pourquoi il y a un profit qui se fait en Alberta, c'est pas parce que Jason Kenney c'est un individu ingénieux, c'est parce que le fédéral investit énormément. Sauf que la contrepartie de ça, c'est que c'est de l'argent du Québec qui s'en va là-dedans, c'est l'argent du BC qui s'en va là-dedans, c'est l'argent de la
Sécession. L'Ontario aussi.
Si on arrête de centraliser le Canada, l'Alberta se rendrait elle-même compte que ces projets-là là, ne sont pas viables.
Fait que tu penses qu'une transition écologique qu'on a besoin qu'il soit rapide peut se faire dans un contexte de décentralisation, parce que tu parlais tantôt situation de crise, on a tendance à centraliser. Certains pourraient dire la crise écologique en ce moment, le changement climatique, c'est une justification à centraliser encore plus.
Non, c'est une façon de centraliser les provinces. Chaque province a son avantage économique, chaque problème. Je veux dire, le Canada au niveau géopolitique, c'est 5 pays. Fait que l'Ouest vont trouver leur façon de faire. Nous, on va trouver notre façon de faire au niveau dans un Canada décentralisé, parce qu'en réalité, nous, nos ressources sont juste pas compatibles.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout le même profil de consommation, de consommation puis d'émissions de CO2.
Le Québec, tu sais. Ce qui est drôle, c'est que le nord du Québec puis le nord de l'Ontario, il y a déjà eu un projet de 11e province.
Oui, oui,
c'est qu'ils ont une culture similaire, pareil, même si...
Avec les mines puis ça,
oui, mais ils sont bilingues. À Sudbury, tu t'en vas à Sudbury?
Ouais, il parle quand même bien français. J'ai un oncle qui vit là-bas. Oui.
C'est quand même bizarre. Comme il parle bien français, son
frère. C'est encore au Québec, mais t'es en Ontario.
Puis c'est ça, puis il parle quand même en français. Mm. Pas tout, mais il y en a beaucoup qui ont de la facilité à parler français.
Je pense que c'est 60-40, là, la ouais, culture français. Okay. Il y a eu des gros débats linguistiques là-bas. Là, mettons, les infirmières qui n'étaient pas bilingues ne pouvaient pas devenir cadres. Que les infirmières françaises apprenaient l'anglais, classique, mais les infirmières anglaises refusaient d'apprendre le français. Mais il se ramassait plus pour être cadre. Ça a vraiment forcé les gens à apprendre le français.
Mais c'est le genre de choses qui va être intéressant dans un Canada désuni. C'est que la seule raison pourquoi que. Moi, je trouve qu'il y a les taxes qui devraient. Fédérales qui devraient rester pour financer, comme je te disais, l'armée, les projets communs, etc. Bon, ouais. Mais tu devrais avoir quand même un petit montant surplus pour financer les projets, pour défendre en fait les groupes minoritaires. Comme en Ontario, ce qui s'est passé. Je veux dire, Doug Ford a littéralement cédé à quelque chose qu'il n'aurait jamais dû. Il y a des compagnies qui exigeaient que les cadres parlent deux langues. de l'anglais puis le français. Puis là, les Ontariens n'étaient pas contents. Certains Ontariens, c'est pas tous, mais c'était une minorité, mais c'est eux qui avaient le plus gros portefeuille, ça a l'air. Mm. Puis ils n'étaient pas contents. Finalement, ah, sais-tu quoi, t'es plus obligé de parler français, etc. Puis ça a fait un énorme scandale. Puis honnêtement, je me mets à... Mettez-vous juste à la place de l'entreprise, OK? Qui vit cette situation-là, qui n'est pas content de la décision du premier ministre. Parce que tu viens de dire non à 8 millions de personnes dans ton marché. C'est ça pareil. Je veux dire, les banques, juste les banques. Si le PDG est pas bilingue, c'est pas bon. Tu viens de dire non à, lui, à un potentiel de 8 millions d'habitants de plus que tu peux avoir dans ton...
Mais qu'est-ce que tu penses d'un gars comme Peter McKay qui se présente et qui parle pas français?
Tu joues aussi, c'est ça, ça. Je veux dire, son passé, il était pas historiquement glorieux non plus, là.
Mais je veux dire, dans la logique de
l'industrie... C'est une honte! C'est une honte! Le Canada est une province... wow. Une province britannique, non, faudrait. Le Canada est un pays bilingue. T'as deux langues officielles. C'est anormal que le premier ministre ou le futur, ou peu importe, le candidat qui veut se présenter ou que l'audace de se présenter, fait l'affront de pas parler français. C'est complètement imbécile. Je veux dire...
Temps, on aurait un chef, on va dire que Jérémy, dans un futur hypothétique, se présenterait à la chefferie d'une pays, mais qui parlait pas une lichette d'anglais. Mais il se ferait démolir.
Le monde serait pas content.
Le monde serait pas content. Ça serait logique.
Oui, ben c'est ça, mais regarde, en même temps, on va parler de... Tu sais, monsieur, on pourrait parler de... En fait, les conservateurs, ça reste une vraie joke en ce moment. Je veux dire, ils ont une crise interne par rapport à la chefferie, mais une énorme crise interne, là. Il y a l'Ouest qui veut pas que ce soit un candidat autre que l'Ouest, sauf qu'ils savent qu'ils peuvent pas gagner sans le Québec. Puis, ils veulent... Tous les conservateurs qui sont pas dans l'Ouest disent que ça va prendre un conservateur qui va pas parler d'enjeux sociaux. Qui va dire, écoute, l'avortement, c'est normal. Il va dire, écoute, aujourd'hui, on est rendu là.
Mais l'Ouest... T'avais-tu quand Pierre Poilievre avait voulu, justement, tenter le terrain, puis tout ça, puis il avait dit qu'il était rendu... Il avait changé d'idée sur l'avortement. Avec les années puis tout ça, puis que maintenant il était neutre, il allait pas lancer le débat. Peut-être que lui personnellement il était pas sûr, mais peut-être que politiquement il ferait rien. C'était sûr, garanti, il laisserait même pas le débat partir. Puis il avait dit que le mariage gay, qui à l'époque il avait voté contre, c'est en 2007-2006. Puis là il dit, ben après avoir vu les 15 dernières années puis tout ça, puis après avoir rencontré des gens puis tout ça, maintenant je suis conscient que c'était une position stupide, puis que ben, l'amour c'est l'amour. Tu sais, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Il s'est fait bloquer par l'Ouest aussi.
C'est ça, les évangélistes de l'Ouest.
Mais
on fait barrage contre lui.
Pour
des organisations extra.
Mais le Parti conservateur.
Pas sérieux. Là.
Sont très, très, très religieux.
Ils ont été infiltrés. Le Parti progressiste conservateur, que moi j'aimais beaucoup et que je respecte, est mort. Ce parti-là est mort pour l'instant.
C'est l'Ouest. L'Ouest, écoute. Harper avait mis son ministre de l'Environnement, c'était un créationniste.
Ah ouais?
Sérieusement. Okay. Le gars croit pas aux dinosaures, le gars croit que la Terre est plate ou qu'elle est faite par Dieu en 16 jours. Ce gars-là, c'était ton ministre de l'Environnement.
Ouais, ok.
Ils ont eu aussi des conversions. Ils ont fait des centres de conversion pour que les homosexuels deviennent hétéros. Je veux dire, c'est un parti qui, en ce moment, est en crise. Parce qu'autant que là, tout le monde veut le voir les libéraux partir, autant que tu vas jamais voir les libéraux partir.
Bon, ben justement, en parlant de cette fabuleuse fédération, là, d'abord, moi, je veux savoir ta vision de la Constitution canadienne. Je commence ça direct demain. Moi, je
m'en fous. T'es rough, toi?
Oh, ouais, rien à foutre, là.
En fait, la Constitution canadienne, on m'avait déjà dit que j'étais un petit peu intense là-dessus, en passant. C'est comme ça?
C'est parfait.
Moi, je suis autonomiste. Puis la Constitution actuelle, je la trouve toxique.
Ok, fait que toi, Jérémy, t'aimes ça, les compétences provinciales?
Ça, c'est un terme que j'ai eu beaucoup de difficultés, parce que faut faire une distinction, ok? Juste pour éclairer les gens sur le sujet. Premièrement, je suis autonomiste. C'est quoi un autonomiste? C'est quelqu'un qui est en faveur d'un développement, du développement provincial par les provinces elles-mêmes. C'est-à-dire, on lui donne plus de ressources. Moi, j'étais pratiquement pour une autonomie financière complète. Pratiquement, parce qu'il y a quelques exceptions près. Là. Mais, tu sais, des services communs qui vont au Canada. C'est-à-dire, on laisse... Moi, une idée que j'avais, c'est on enlève l'impôt fédéral, on met seulement de l'impôt provincial, puis on crée une taxe fédérale sur les revenus de la province.
OK, ouais, c'est vraiment un changement radical.
Ben, c'est que dans le fond, si la province fait plus d'argent, fine, mais ta taxe, elle ne changera pas, elle va rester pareille. Si la province fait moins d'argent, mais ce que tu perçois au niveau de la province va diminuer. Là. Fait que tu y vas en fonction des revenus de la province. Là.
T'aurais plus besoin de faire de péréquation.
Non, c'est que les provinces vont être capables de se développer par elles-mêmes. Par contre, ce que le Canada peut servir aussi, tant qu'à moi, c'est plus large que ça, tout en respectant les compétences provinciales, c'est le distributeur. Tu sais, on parlait d'économie d'échelle. Monsieur l'économiste devrait savoir c'est quoi, c'est lui qui me dit c'est quoi.
Je suis encore économiste, j'étudie là-dedans.
On avait parlé justement pendant ma campagne, puis tu sais, c'est vrai que le Canada peut servir de distributeur aux provinces pour des questions économiques, des questions de coûts. Parce qu'en fait, on appelle ça, on me disait, de l'économie d'échelle.
On avait parlé de ça dans le contexte du projet de loi des libéraux, je crois, pour la l'assurance médicament.
Ben, l'NPD l'avait.
L'NPD aussi l'avait, mais c'était vu que les libéraux avaient des chances de rentrer, puis l'NPD non.
Ouais, mais c'est, ils l'ont retardé.
Ouais, ça, c'est le classique.
C'est comme je disais dans le débat, flash à gauche, me tourne à droite. Hein.
Mais ça, c'est un dragon vieil comme le monde. Jack Layton utilisait le
genre de temps, puis c'était mieux. Oui, c'est quand même drôle. Mais c'est quand même vrai en un certain sens. Mais je veux dire, il est allé chercher un électorat qui est beaucoup plus de gauche en espérant. Sauf que...
Avec en disant un vrai progressiste, puis tout ça.
Ben, il a pris des vrais progressistes. Il les a mis. Il s'est rendu que quoi, Joël, si je me trompe pas, il est rendu chef du caucus québécois.
Ça se peut. J'ai pas suivi l'ascension de
Joël. Mais il est chef du caucus québécois, ben, je peux te l'affirmer.
Mais... Ce qui est pas rien.
C'est... Non, non. Mais tu sais, je veux dire, c'est beau. C'est comme le ministre du patrimoine qui est... Mais ça, c'est une vraie blague pour vrai, parce qu'en réalité, il va devenir ministre de l'Environnement. C'est le temps que tu fasses.
Mais est-ce que tu penses qu'il n'est pas déjà ministre de l'Environnement? T'sais, c'est genre un ministre fantôme, un peu l'autre. C'est juste un peu.
C'est comme.
C'est plate à dire, mais un peu comme le candidat. Le ministre poteau.
Je pense que le Frontier Tech, qui est un des projets les plus dégoûtants au niveau des sables bitumineux, puis qu'on devrait vraiment pas y aller. Vu que je pense que les libéraux savaient avant que ça allait arriver, puis je crois sérieusement qu'ils ont mis Guilbeault, ministre du patrimoine, pour y épargner une tâche à sa réputation. Puis le moment que Frontier Tech aurait passé, s'ils le font passer, on le sait pas encore, mais ils vont juste changer de ministre.
Tu penses?
Moi, je pensais que c'est une stratégie politique viable.
Tu sais, de toute façon...
Il n'y a aucune logique à mettre M. Guilbeault patrimoine.
À moins que tu veuilles le former à comprendre comment le Parlement fonctionne, comment est-ce qu'un conseil des ministres fonctionne. Il n'y a pas d'expérience.
Mais en même temps, c'est surtout une façon de, si jamais un de tes projets vire à l'eau ou est mal vu, tu as juste à changer de ministre.
Oui, c'est sûr que ça leur donne une porte de sortie.
De toute façon... Je pense qu'on s'entend les trois pour dire que dans tous les cas, M. Guilbeault a un pied dans le ministère de l'Environnement.
Mais il y a un pied dans la porte aussi, c'est Frontier Tech. Moi, je le verrais bien faire un comme Nicolas Hulot en France, là, juste dire non, mais moi, je m'en vais, les gars, là, c'est pas sérieux ce qu'on fait. Là.
Ouais, ben, rendu, c'est de se dire.
Ça a donné un méchant coup de fouet en France. Là,
mais
là,
quand
après, ça a. C'est où hein? Ça a changé.
Quand t'as un pied dans la machine, je veux dire. C'est plate à dire, mais quand t'es vraiment rendu dans le gouvernement, tu te dis, je suis rendu là. Est-ce que je vais vraiment reculer? Je suis rendu là, pas la capacité nécessairement, mais la possibilité d'apporter des changements si je travaille vraiment fort.
Ouais.
Sauf que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que des fois, un parti veut juste rien savoir du changement.
Le Parti libéral, c'est un gros parti, c'est une grosse machine à bouger. Là. C'est pas...
Mais tu sais, on parle des libéraux, on peut parler aussi des conservateurs.
Ouais, les conservateurs aussi, ça serait comme ça.
C'est juste qu'en ce moment, le plus gros parti...
qui sont vraiment gros, qui sont pesants, qui ont un gros establishment.
Par contre, je pense qu'il y a quand même deux variables là, qu'il faut quand même pas oublier dans l'équation. C'est le conseil privé et le cabinet. Du premier ministre, et non pas des ministres. D'une part, des hauts fonctionnaires qui savent à peu près tout et n'importe quoi sur le Canada, et d'autre côté, des conseillers très proches de M. Trudeau, qui ont rien à voir avec le cabinet des ministres, ou même avec le Parlement, et au final, ce sont eux qui tissent réellement la toile de ce qu'est le Canada à l'heure actuelle.
En fait, c'est ça, c'est quand même drôle parce que c'est le problème de tous les pays depuis les années 80. Je veux dire, la majorité des pays depuis les années 80, ça a toujours été des intérêts privés qui ont réellement dominé la sphère politique. Puis c'est, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la vision qu'on a de la vision moderne que les gens blasés ont, puis la vision qu'on devrait avoir, puis ce qu'il y en est de la réalité. En premier lieu, les gens blasés disent que ça changera jamais. Bon, ça c'est normal, ils disent tout ça. C'est plate, mais c'est une vision qui existe, que je te dirais, qui est très partagée par une grande majorité des gens.
Ce qui est étrange, parce qu'on s'entend que la société, dans les 40 dernières années, a changé drastiquement. On est passé d'un état-providence, puis tout ça. à le néolibéralisme avec des taux d'intérêt à 22% où le monde pouvait payer leur maison avec leur carte de crédit, c'était moins cher. Ah, mais non, votre taux d'intérêt est à 3%. Mais c'est tous des changements, mais ça change pas. Peut-être qu'ils ont raison que la fondation change pas.
Ben, c'est ça, je te pour dire, c'est plus la fondation dans ce cas-ci. La base, le système qu'on utilise qui a pas réellement changé. Puis où ce que je veux en venir, c'est que. On peut parler de Fitzgibbon, qui est un ancien gestionnaire de portefeuille aussi, il a géré des portefeuilles, des compagnies, etc. On peut parler de Legault, qui est l'ancien propriétaire.
Et Morneau avec son père, tout ça.
On peut parler.
De délit d'initié.
Exact. On peut parler de.
C'est sûr.
Encore de Couillard, qui était médecin. On peut parler. Je veux dire.
Une espèce d'élite.
Il existe une élite. Oui, il y a une élite, mais je veux dire, il ne faut pas oublier le background des politiciens. Désolé du terme background en passant. Non,
mais... ah, je suis correct.
Mais. C'est faut pas oublier leur passé, leur bagage en fait de professionnel. Tu sais, on peut pas se demander pourquoi on doit pas se poser la question pourquoi qu'un médecin qui était du premier ministre va essayer d'avantager les médecins avec des salaires incroyables.
Surtout quand ils s'entourent de médecins.
Ouais, faut pas non plus
un fameux trio santé, c'est trois médecins spécialistes.
Faut pas non plus s'étonner qu'un ancien homme d'affaires qui a une mentalité des années 60 s'entoure d'une gang d'hommes d'affaires avec une mentalité des années 60, applique des lois qui datent des années 60 puis qui a une vision du modèle d'affaires qui date des années 60.
Il faut pas non plus surprendre à ce moment-là qu'un gars comme Justin Trudeau applique des politiques, comme un peu son père à l'époque.
Oui.
Des politiques.
Oui, effectivement.
Qui cadrent avec la charte, qui cadrent avec la constitution que son père a amené.
Exactement.
Le multiculturalisme, tout ça. Parce que c'est là-dedans qu'il a été éduqué.
C'est un héritage.
C'est ça, c'est son héritage intellectuel et politique que son père lui a légué. C'est dans le milieu où il a évolué dans ses écoles, puis tout ça. Veut pas, là, il a pas été placé dans des écoles conservatrices, le gars. Là.
Non, mais c'était.
Qui a grandi autour de, t'sais, Jean Chrétien et tout ça.
Exact.
Mais Castonguay. Pas Castonguay, mais. Enfin bref, je me souviens pas de son nom fait comme ça, mais l'autre colombe qui était avec
c'est tout pour dire que un des problèmes qu'on a aujourd'hui c'est le fait qu'il y a pas on parlait qu'il y avait c'était des hauts fonctionnaires qui décidaient, qui géraient en quelque sorte les partis politiques, etc. On peut parler aussi du fait que regardez quand c'est conservateur ou libéraux, puis regardez la plateforme économique a pas réellement de changement. Ils sont très similaires. C'est rendu un engrenage stable, en fait. Je veux dire, un fonctionnaire, ça n'a pas une affiliation précise à un parti. Là. Je veux dire, je travaille pour le ministère, je suis un fonctionnaire, là. je suis un directeur de ministère.
On a l'avantage de ça comparé aux États-Unis, où c'est que les fonctionnaires, ben pas toutes, là, mais les fonctionnaires de haut niveau changent souvent avec la présidence.
Effectivement. Les sous-ministres changent, puis ça. Parfois les
directeurs d'agences de protection et renseignement souvent changent.
C'est comme ce qui est intéressant avec la CAQ, c'est qu'ils ont pris beaucoup d'anciens péquistes. Et libéraux.
Ouais, ben, c'est pas trop le choix quand il y a. Tu sais, je veux dire, c'est un parti récent, fait faut que tu ramasses.
Ben, c'est surtout que la majorité de candidats, il y a beaucoup de candidats de la CAQ qui sont des anciens députés ou anciens candidats, excuse, PQ, sont encore libéraux. Ça reste une coalition, sans
doute. Ouais, c'est ça. Oui.
Mais où ce que je veux en venir, c'est aujourd'hui, penser que nous, ce qu'on devrait faire en tant que politicien, c'était consulter des professionnels, être plus proche de la population. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que peu importe le parti qui va l'emporter depuis les années 80, t'as tout le temps la même.
C'est plus les fonctionnaires qui consultent les politiciens, en fait.
Ben, en fait, c'est plus les politiciens qui consultent les fonctionnaires. Peu importe le parti, ils vont changer, puis tu vas regarder que.
Mais ils écoutent, dans le fond. C'est parce qu'ils font pas juste consulter, c'est qu'ils écoutent.
Les fonctionnaires.
C'est ça, mais peut-être parce que, comme tu l'avais dit dans la première version de l'enregistrement, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait, parce que Jérémy a scrappé le premier. Fait que, dans la première version, il avait dit, Jérémy, tu peux consulter, mais t'es pas obligé d'écouter.
Exact. On peut consulter, mais on n'est pas obligé d'écouter. En général, par contre, au niveau des politiciens, moi, je pense plus qu'ils écoutent les fonctionnaires, mais ils consultent la population. Tu sais, je veux dire,
non, c'est ça.
On voit une tendance incroyablement fâcheuse. C'est quoi la différence entre les conservateurs et les libéraux? La grande différence qu'il y a est au niveau social. Les libéraux sont plus de gauche sociale. Les conservateurs sont beaucoup plus de droite sociale, mais économiquement, ils sont des mêmes bottes. Économiquement, ils font les mêmes actions, il n'y a pas de grande différence, à part quelques coupures dans le niveau des conservateurs, puis les libéraux. Les
conservateurs dépensent plus dans l'armée, les libéraux moins. Ça.
C'est les conservateurs, puis les libéraux au niveau de l'Alberta sont un peu similaires, on va se dire, on ne se cachera pas les faits. Mais tu sais, c'est pour dire que
Quoi qu'on peut se dire que si c'était les conservateurs au fonctionnement, Tech Frontier, ça serait même pas une question, ça passerait.
Ben, pour les libéraux, c'est pas plus une question. Je veux dire,
ouais, au moins, on se doute qu'il va y avoir un débat à l'interne. On espère que ça va capoter.
Ouais, mais encore.
Et avec les conservateurs, on n'aurait pas cet espoir-là. Là.
Non, c'est clair.
Ils sont bien notés en public, mais quand c'est le temps d'en discuter au conseil des ministres, ça doit jaser. Je peux pas croire.
Ouais, mais j'ai quand même en dedans de moi une vague idée de comment ça se passe. Je veux dire, c'est pas une décision que des députés vont décider.
Non, mais le ministre, je veux dire, la délégation du Québec est apparemment, selon ce qu'on voit dans les médias, est en furie contre ça. Ils veulent rien savoir.
Oui, mais on parle de la délégation du Québec. On va parler des conservateurs. Tu sais, je veux dire, il y a eu un temps que les conservateurs, il y a eu plein de députés au Québec, puis qui s'est passé des projets complètement débiles à un certain temps. On peut parler des libéraux qui ont une majorité des députés au Québec, mais qui vont quand même appuyer ce genre de projet-là si le parti décide d'y aller. Si le chef. Moi, c'est ce qui me fascine avec ces gens-là, qui ont une idée, puis qui ont une conception tellement différente de leur parti, mais pour s'assurer d'une stabilité, vont supporter leur parti qui ne devrait pas supporter. Je suis désolé, mais moi, je vais le dire, si un jour le NPD serait au pouvoir, était au pouvoir, désolé, et que moi, je me ramasse dans une situation où je dois voter pour ou contre un genre de projet comme ça, je voterais contre. Ça a des répercussions beaucoup plus grosses que ce qu'on pense. Pourquoi je le supporterais pour appuyer mon parti? Non,
quand l'issue dépasse ton parti, tu dois voter pour le pays. Il
faut que tu votes pour la population. Tu sais, je veux dire, à un certain stade, on peut voir la CAQ, en fait, avec Rouyn Noranda puis l'usine.
Ouais,
la Fonderie Warren, à quel point que plusieurs candidats, ou encore Suzanne Blais, qui sortait pour contre le projet Autier, mais en même temps, son parti, quand il a dit, le parti en a parlé d'un coup, puis ça l'a arrêté de sortir, oups, elle s'est un petit peu mis en arrière du parti, puis c'est ces moments-là où je me dis à quel point il faut être déconnecté.
Mais non, toi, tu penses que ta solution de réduire le pouvoir d'Ottawa puis de les donner plus aux provinces, ça réglerait un peu ce problème-là d'une espèce d'establishment d'élite qui contrôle, une élite de fonctionnaires qui contrôle le pays au complet?
Avec tout ce qu'on vient de parler, pour les auditeurs qui peuvent penser que c'est hors sujet, en fait, ça a une énorme corrélation positive. Si on réduit l'autorité d'Ottawa pour en laisser plus aux provinces, puis si les provinces d'elles-mêmes réduiraient leur propre autorité pour en laisser plus aux municipalités, on aurait beaucoup moins de problèmes au niveau du fait que on dépend d'une... C'est beaucoup plus difficile corrompre et contrôler 338 personnes qu'une seule personne. Ou encore un cabinet de personnes. C'est incroyablement plus compliqué. Puis autant que les gens vont dire, ouais, mais si personne prend des décisions globales, écoutez, moi, je vais dire, comme j'ai dit, il y a des raisons logiques pour lesquelles on devrait faire affaire à titre de Canada distributeur, mais il y a aussi beaucoup de raisons logiques pourquoi on devrait garder de plus en plus possession de nos moyens pour développer nos propres projets. Puis justement, si on réduit les pouvoirs d'Ottawa, juste Ottawa, sans parler des provinces, on va déjà avoir une population puis des députés qui vont être beaucoup plus impliqués au niveau de la province. Ils vont défendre beaucoup plus les intérêts de la province que l'intérêt du pays. Puis encore là, au niveau des provinciales, je ferais la même affaire. Ça, c'est mon opinion personnelle, parce que, encore là, si les députés ont plus d'intérêt à défendre leur région, leur circonscription, ils vont moins défendre le parti. Ils vont défendre beaucoup plus les gens et leur intérêt dans leur circonscription. Faut faire attention aussi, là. Je veux dire, il y a des gens qui vont dire, ah, ma circonscription veut ça, je vais lui donner ça. Je veux dire, en Abitibi, OK, on est une région minière. Mais ça veut pas dire qu'on doit avoir tous les projets, on doit dire oui à tous les projets qu'il y a pas, là. Ça veut pas dire qu'on doit dire oui à des projets qui ont aucun bon sens, là. Je veux pas dire.
Déficitaire, pis ça.
C'est, je veux dire, à un moment donné, faut être logique aussi.
Est-ce que tu penses que ta solution d'autonomie puis tout ça, ça aiderait aussi à combattre un peu le cynisme? Les gens se sentiraient peut-être plus impliqués si la décision se faisait plus proche d'eux?
Je crois aussi que les gens se rendent compte que leur argent se ramasse plus dans leur poche, serait content. Tu sais, souvent, on parle de couper les impôts. Moi, je trouve pas que c'est une solution viable. Mais si on dit que l'argent du Québec reste plus au Québec...
Ah ben déjà...
Si on dit Jonathan, lui, il essaie, lui, déjà.
Si on dit que l'argent d'Ontario reste plus à l'Ontario, ben l'Ontario, c'est parce que tout l'argent du monde s'en va là.
Ouais,
si on dit que l'Alberta, l'argent de l'Alberta reste en Alberta, si on dit que l'argent du BC reste au BC, seulement tu permets aux provinces de développer des programmes sociaux qui vont être sûrs, des programmes sociaux qui vont avoir une...
Ils n'auront pas de fluctuation de leurs revenus comme quand Harper avait coupé les transferts. Ils vont savoir à quoi s'attendre.
Oui, parce que ça va rester. Là, tu ne vas pas faire des programmes sociaux précaires qui vit seulement sur les transferts de fonds. Tu vas avoir des programmes sociaux qui vont se baser sur les revenus réels de la province qu'elle a accès à tous les jours.
Ben justement, si tu me le permets,
oui,
parlant de précarité, en 5 minutes, j'aimerais ça... avoir la vision. Ben, si tu as eu des communiqués par rapport, mais juste ta personne, ça serait intéressant. Un peu ta vision de la crise ferroviaire qu'il y a présentement au pays. Parce que c'est un gros morceau, là, je suis conscient, puis en 5 minutes, ça va être peut-être un peu rough, mais est-ce que tu as eu des communiqués du NPD? C'est quoi la vision du parti en ce moment concernant cette crise-là? Est-ce qu'il y en a une seulement?
Mais oui, en fait, le parti a une vision assez... que je partage cette vision-là énormément de points sur le fait que... Pourquoi qu'on... Moi, je comprends pas qu'on veut défendre l'économie, qu'on veut défendre autant, mais quand on parle de défendre les gens, par contre, là, c'est non fondamental. Je veux dire, il y a des grésifs qui n'ont même pas encore accès à l'eau potable. Ça fait 40 ans qu'on le sait. Puis ouais, on fait rien. Ils bloquent des chemins de fer. Tant mieux. Hey, pour une fois qu'on parle d'eux. Je veux dire, à un certain stade.
Non, c'est vrai.
Le pire, c'est qu'on en a parlé, moi puis Jonathan, dans notre dernier balado récapitulatif. On disait justement, on fait des pipelines de gaz puis de pétrole. On les enferme dans une loi qui dégueulasse avec la loi sur les Indiens, selon nous, qu'on trouve qui est dégueulasse. Puis après, quand ces gens-là se plaignent, parce qu'on n'est même pas foutu de leur donner de l'eau, t'es quand même là. Mais... Puis que ces gens-là meurent de tuberculose, tu sais, une maladie qu'ici au Québec, vous n'avez pas entendu parler depuis les années 60, peut-être.
Mais c'est surtout...
normal qu'ils protestent.
Oui, mais c'est... Puis je suis content que pour eux... Ben, tu sais, je suis plus ou moins content, je veux dire... Le Bloc et le NPD ont eu la meilleure position sur le sujet. Par contre, les libéraux puis les conservateurs, surtout les conservateurs, j'étais choqué. Honnêtement, c'est des radicaux. Hey, ils n'ont même pas accès à l'eau potable. Si on dirait demain que Montréal n'a pas accès à l'eau potable, il se passerait quoi? En l'espace de 2 jours, tu aurais des plans de financement incroyables, etc., juste pour qu'on ait accès à l'eau potable.
On fait juste regarder le verglas quand on n'avait pas d'électricité.
Très bon
exemple. C'était le branle-bas de combat. L'armée était mobilisée. Les hélicoptères pitchaient de l'argent aux municipalités à coup de gros sacs d'argent pour que le monde puisse survivre, puis tout ça. C'est des réserves autochtones qui ont peut-être, on le sait pas, mais qui ont pas eu l'électricité bien plus
longtemps. Honnêtement, moi, mon opinion, c'est qu'on voit encore les autochtones comme une sous-espèce. C'est plate, mais à proprement parler, on se comporte comme si...
Légitimement, là, comme dans notre subconscient,
tu parles les gens ou tu parles le gouvernement?
Le gouvernement...
Ben, les gens aussi.
Mais j'ose pas trop dire les gens, parce que...
Je suis pas prêt à généraliser non plus pour les gens.
Non, c'est pas de la généralisation, mais quand même...
Il y a certaines personnes que... Ben, tu sais, on voit juste les commentaires, il y a du monde qui disent qu'on aurait dû mettre plus de variole dans les couvertes, on aurait dû mettre... Mais je veux dire, on va se le dire, il y a un énorme... On parle de racisme au Québec, je pense que le raciste le plus constant et le plus incroyable qu'il y a au Québec, c'est envers les Autochtones. Puis au Canada aussi.
Au complet, je pense.
Mais c'est quand on les voit, fascinant. Oui, mais on les voit comme une sous-espèce. Puis autant que le monde va dire c'est pas vrai, autant qu'on regarde ce qui se passe en ce moment. Là, on, pour une question de prospérité économique, on va lui enlever leur
économique, elle a le dos large en plus. Là,
je veux dire, regarde, à un moment donné, c'est pourquoi ces réserves-là ne peuvent pas se développer. Tu sais, quand tu n'as pas accès à de l'eau, c'est sûr que tu pourras jamais te développer à proprement parler. Quand que tu as un taux de criminalité, là-bas, plus le monde va dire, il y a un taux de criminalité parce que c'est des dealers, whatever. Non, t'as même pas accès à de l'eau. Tu fais quoi que tu fais mais quelque chose pour survivre.
Quand t'as pas d'emploi, pis tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, quand il n'y a pas d'opportunité pour toi, pis quand tu veux sortir de ce système-là, que t'es littéralement obligé de te renier toi-même. Ouais. Ben, c'est sûr qu'à un certain moment, t'as des choix à faire, pis des choix qui seront pas nécessairement bons pour toi.
Puis à un moment donné, ces choix-là sont conditionnés aussi. Là. Je veux dire, si dans ta famille, t'as eu des gens qui ont, ou t'as des parents qui ont vécu de façon violente, avec des comportements plus ou moins acceptables, ben, veux pas, ça a des répercussions sur ton développement aussi. Là. Je veux dire, c'est pas toi qui es libre de tes choix à 100%, t'es restreint avec ce que tu vis comme expérience.
Par contre, autant que je compatis avec les Autochtones et tout ça, pis autant que ce que je comprends que leurs réclamations, leurs revendications sont très légitime, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen tout de même de faire une négociation, faire quand même un signe de bonne foi? Quand même, Justin Trudeau a retiré les troupes de la GRC des territoires. J'essaierai pas de prononcer le nom parce que je vais le massacrer. Mais il n'y aurait pas moyen de faire un signe de bonne foi que de lever certaines barricades critiques. Parce qu'on parle quand même que oui, on peut compartir avec les Autochtones. Puis là, on parle plus juste d'économie quand on parle du ferroviaire. C'est que là, ça a des impacts réels sur l'approvisionnement et là, l'oncle on fait souffrir beaucoup de gens. Là, si les Autochtones continuent sur la ligne dure, moi j'ai peur que ce qui arrive, c'est que même avec un gouvernement avec les meilleures intentions du monde, à un certain moment, il y a à choisir entre quelques réserves et plusieurs millions de personnes à l'Est. Il va choisir plusieurs millions de personnes à l'Est, puis c'est logique.
C'est, en réalité, s'il y aurait vraiment un acte de bonne foi à faire, ce serait du gouvernement de dire, OK, regarde, peut-être que finalement, vu que c'est un territoire non cédé en plus, peut-être que finalement, on passera pas le pipeline dessus.
Mais c'est une compagnie privée qui passe le pipeline, non?
Ouais, mais
il y a des ramifications gouvernementales.
Beaucoup de lobbies. Dans le jargon, on appelle ça des think tanks.
Ouais.
C'est, je veux dire, c'est pas normal que la GRC se ramasse là.
Mais là, ils ont sorti au moins.
Ouais, ils ont sorti.
Mais le plan de M. Blanchet est quand même très. On s'entend, ça oppose.
Il est noble.
C'est un beau c'est projet. Correct. Mais il est réaliste aussi. Puis le NPD, je pense, l'appuie aussi, ça, cette motion-là. Oui, ouais. C'est-à-dire de retirer les troupes de la GRC,
oui.
Arrêter la construction du pipeline le temps qu'on négocie, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un autre
oui, trajet.
Puis de mettre des polices autochtones à la place.
Mais moi, j'ai dit, comme j'ai dit, regarde, si on arrête la construction du pipeline à l'état des négociations, je suis d'accord que les barrages devront arrêter. Tu veux dire, amener... C'est
on
comme,
peut pas tout donner
non tu plus. Tu peux pas non plus tenir en otage les biens commerciaux non plus. Là. Mais... À un certain stade, je suis assez ferme sur le sujet. Je défends énormément les Autochtones sur le fait que c'est un territoire non cédé. Puis la compagnie a beau avoir des intérêts. C'est pas normal qu'une compagnie privée ait plus d'importance que les gens puis leur territoire. C'est une chose normale.
Je recommande, pour conclure, je recommande à tout le monde d'écouter le documentaire. Il commence à dater un peu, mais ça s'appelle « Le peuple invisible ». Je me rappelle plus du producteur, mais c'est quelqu'un de bien connu au Québec. Là. C'est juste embêtant, je me rappelle plus de son nom. Mais enfin, bref, Le Peuple Invisible. Très bon documentaire qui explique un peu l'historique des Autochtones et leur ce qui en est présentement. Et c'est une image, en fait, qui m'est restée gravée dans le cerveau. C'est un hélicoptère qui filme une réserve, juste à côté d'un barrage hydroélectrique. Mais la réserve n'a pas d'électricité. Alors, bon, c'est une image, ça vaut ce qu'elle vaut, mais vraiment, Le Peuple Invisible, si vous voulez écouter un bon documentaire très critique de la situation, c'est à voir.
Moi, quelque chose qui m'a choqué un petit peu, c'est que certaines personnes aient pris cette cause-là pour s'en servir pour faire du grabuge, comme à Saint-Lambert, par exemple. Mais ce qui m'a aussi déçu, c'est de voir la position de François Legault, qui, on s'entend là. S'il y a une province dans le Canada qui devrait supporter la cause des Autochtones, Cibole, ça sera pas l'Alberta, ça sera pas l'Ontario.
Avec le Québec.
À un moment donné, allumez, là. Il y a une cause commune entre les deux, là.
Oui, mais.
Peuple fondateur, la seule raison que le Québec n'est pas une grosse réserve, c'est parce qu'on a été chanceux que notre démographie, on réussisse à rester majoritaire suffisamment pour imposer nos propres lois. Fait que Jérémy, pourquoi est-ce que tu t'es présenté avec le NPD dans Louis Hébert quand t'aurais pu te présenter, par exemple, avec le Bloc, avec les libéraux? Ben, les libéraux, c'était Lightbound, là, ça aurait été compliqué, mais...
Il y avait déjà un excellent candidat de base, là, on se le dit, là. C'est, peu importe votre affiliation politique, faut être capable d'admettre quand un candidat se démarque réellement.
Réussir à tasser Lightbound dans une course à l'investisseur, t'es mieux d'être sacrément baloché puis bien équipé, parce que...
C'est surtout mieux d'avoir beaucoup de contacts puis beaucoup d'amis, dans le sens de dire que Lightbound est très impliqué dans Louis Hébert, Lightbound est très présent, puis c'est une circonscription, pas qui lui est redevable, mais c'est une circonscription qui le voit beaucoup évoluer avec lui. Elle se voit beaucoup évoluer avec lui.
Mais j'ose te poser la question, dans ce cas-ci, dans le cas de Louis Hébert, à t'entendre, les gens votent pour le candidat.
Oui, officiellement. Les gens ont voté pour Lightbound. Parce que les gens se sont affiliés à Lightbound. C'est comme, en fait, tu sais, vous avez entendu parler de l'ancienne ministre de la Justice du fédéral qui a démissionné. Elle a quand même gagné dans son comté.
Effectivement.
Je veux dire.
Ce qui est exceptionnel pour une indépendante.
Oui, mais c'est très fort. C'est quand même de démontrer que dans certains cas, il y a beaucoup de gens qui votent pour. Tu sais, on dit que le choix des gens, c'est 50% le candidat, 50% le parti. Je suis en désaccord avec cette vision-là, parce que je vous dirais que la majorité du temps, les gens votent pour le parti. J'ai vu beaucoup de gens dire « je supporte la CAQ, on a rien à voir des régions », parce que les candidats étaient vraiment, sans vouloir dire de nom ni rien, parce que les candidats étaient vraiment questionnables, vraiment...
Et à l'inverse, on a un ami commun qui se présentait à la CAQ, qui était super compétent, puis les gens ont voté pour QS à la place.
Oui, puis mais on s'entend que...
Mais ça, par la fesse, là, ça, c'est quelque chose qui
me s'envoie, je pense. Dans cette circonscription-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des rares candidates de Québec solidaire que je trouve incroyable, exceptionnelle.
Ouais, il excellent était pas dans une mauvaise situation. Il
on parle de qui, juste...
Émilie Thérien, si je
me trompe. Okay,
Jérémy Bélanger, si je me trompe pas, pour la
carte. Oui, pour Roy Naranda, les Vitibitimiscamingue.
Mais il y avait un peu la même dynamique aussi à l'époque, NPD, justement, contre les conservateurs, Center, Jean-Maurice Matt contre Roméo Saganache, deux candidats, genre.
Exceptionnel.
Mais... Tu peux pas demander mieux que ça. Là. C'est vraiment le poids lourd. Peu importe qui rentre, t'es content.
C'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, dans certaines circonscriptions, on voit que les gens votent vraiment pour le parti. Point. Ou encore là, c'est un mouvement. Comme au NPD, on a eu, je veux dire, en 2011, malgré que c'est mon parti, on va se dire qu'en 2011, il y a eu des candidats qui sont rentrés, qu'on se demandait même.
Le Roux-Tenon Brosseau était même pas là, t'es à Vegas.
Mais ça, c'est à ce stade-ci, c'est là ce qu'on se dit, qu'on se demande vraiment, OK, pourquoi que les gens votaient NPD? Puis on se voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le chef Pointe. Mais il faut se dire que Ruth-Hélène Brousseau était aujourd'hui est vue comme une des meilleures députées parlementaires. Oui, ils ont mis beaucoup, je pense, d'emphase sur Montréal, ce qui, selon moi, était une certaine erreur. On a eu quelques erreurs au niveau du parti. On a mis beaucoup d'énergie sur Montréal.
Ils ont perdu Guy Caron.
Oui,
Ariane. Ils ont perdu Ruth-Hélène Brousseau. Ils ont perdu, voyons, le nom m'échappe, mais il y en avait un troisième.
À Sherbrooke.
Oui, c'est ça, Sherbrooke. Puis on perd. Ben, dans le comté de Belleuil, il y avait un bon candidat, mais tu sais, c'était Yves-François Blanchet, fait qu'il était mort à l'avance.
Mais tu sais, c'est. Comment je pourrais dire? C'est que. À un certain stade. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, comme je disais, on disait au départ pour revenir au sujet, c'est qu'ici, oui, le monde a eu un vote de confiance envers Joël Lightbound. C'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que j'encourage en passant. Éventuellement, je compte quand même réussir un jour peut-être à emporter de Louis Hébert. Je suis quand même confiant sur le sujet, mais il va vraiment falloir qu'une gourde se produise par les libéraux fédéraux pour que ça arrive.
Mais une question pour toi, parce que tu dis que tu as espoir de gagner Louis Hébert, mais mettons que c'est Lightbound, il est quand même jeune, il pourrait rester en pouvoir ou pendant les 12-16 prochaines années, ou Dieu sait, le Bloc pourrait le remplacer ou un autre parti, ou une autre vague d'une autre couleur. Est-ce qu'à un moment donné, tu serais prêt à aller dans un comté plus favorable au NPD? Peut-être pour espérer faire avancer les choses un petit peu plus vite?
C'est quelque chose que j'ai fortement... Puis de plus en plus, plus ça va, plus je l'envisage. Mais je veux pas me présenter dans un comté, par contre, que je ne connais pas.
OK.
Ça, c'est
tu veux pouvoir représenter la population?
Oui, je veux pouvoir avoir une confiance avec eux, établir des liens. Parce que c'est important, je veux dire, gagner pour gagner, ouais. Ça vaut pas grand-chose. Gagner pour représenter des gens, ça vaut quelque chose. Comme là, on pense, je sais que l'Abitibi, je suis originaire de l'Abitibi.
Il y a Louis... des chances, probablement.
Oui, puis il y a Louis Hébert, que quand même, on va se le dire, aussi en amour avec la circonscription. Fait que pour moi, ça va être dur de trouver un autre endroit parce que pour que je représente la circonscription, j'ai une règle en soi de m'impliquer ou de trouver la circonscription accueillante. Il faut que je l'aime. Je veux dire,
faut que tu te sens d'accueillir, mais il faut que tu sentes que tu puisses redonner aussi.
T'sais. Exactement. Okay. Mais j'y ai pensé aussi parce que, étonnamment, M. Lightbound, c'est un des seuls individus, je pense, que je serais vraiment intéressé à le confronter à la Chambre des communes aussi. Je veux dire, c'est à ce point-là, j'ai vraiment apprécié l'individu. Puis autant que c'est un rival politique, autant que je trouve que c'est quelqu'un qui ça peut être agréable de se développer, même quand on est contre la personne.
Mais t'aimerais pas ça peut-être travailler avec un gars comme Lightbound?
En fait, au niveau parlementaire, je pense que c'est une des options qu'on pourrait fortement... C'est drôle que t'en parles, parce que c'est vrai, c'est quelque chose que je pense aussi. Tu sais, souvent, même moi, je viens d'en parler, on parle souvent de rivalerie, etc. Mais c'est vrai dans certains cas que je trouve qu'au Parlement, autant canadien que québécois, on a un problème majeur, c'est le manque de coopération entre les partis. C'est incroyable à quel point qu'un parti... Puis on va se le dire, que ce soit le Bloc, que ce soit le libéral, le NPD ou encore le conservateur...
Aux États-Unis.
Exact. Peu importe le pays, à quel point les gens sont bornés puis se cachent derrière un parti... Faut qu'on soit capable de se démarquer du parti. Je veux dire, si un jour un député du Bloc ou une députée du Bloc décide de proposer une solution qui est intelligente, puis tout le monde dit non, c'est pas mon parti qui a pensé, c'est complètement aberrant. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on avance.
On a vu un vote justement récemment, c'était le Bloc qui avait proposé l'extension de l'assurance chômage à 50 semaines pour les personnes atteintes d'une maladie, je crois qu'il devait être une maladie grave, si je me trompe pas.
Oui, c'était.
Il y a eu un vote pour du NPD, tu dois être content, un vote de.
Oui, mais...
Puis il y a eu un vote des conservateurs, mais les libéraux ont voté contre. Mais ça a passé pareil parce que c'est un gouvernement minoritaire. Donc... Hey!
Non, mais je veux dire, dans ce cas-ci, c'est intéressant. Puis, tu sais, je veux dire, comme j'ai déjà dit, au niveau du. Comment je vais dire ça? Tu sais, on a beau présenter des projets de loi. Moi, ce que je serais plus intéressé, c'est voir des partis collaborer pour en créer. Hein. Ou ce que je veux en venir, là, c'est le Bloc qui a présenté un projet de loi.
Ok, tu veux dire, mettons...
Mettons, le Bloc décide de faire un projet de loi, il faut voir d'autres parties dire « Hey, on établit un projet de loi ensemble. »
Ok, faisons une simulation. Jonathan vient de... Vous êtes les deux députés, ok? Puis moi, je suis un simple observateur. Puis Jonathan arrive, il dit « J'aimerais faire un projet, mettons, sur... »
Jonathan est dans du Bloc.
Ouais, Jonathan est dans du Bloc, puis toi, tu serais dans une PD, on va dire. Puis Jonathan vient de voir, puis il dit « Moi, j'ai eu une idée pour une réforme, par exemple, de la fiscalité pour les transferts fédéraux. Est-ce que tu serais prêt à m'appuyer? » Là, vous discutez un pilote, puis vous faites toi, tu rajoutes ton expertise, Jonathan rajoute son côté plus pour le bloc, tout ça, puis vous finissez par arriver à un accord, puis vous présentez ça, un accord co-signé, commun, ouais, à la Chambre. Puis vous essayez de faire passer ça les deux.
Oui, je trouve
que c'est... Tu voudrais voir des... C'est oui, plus américain un petit peu, la base, ça.
Oui, mais c'est le temps que je pense qu'on commence à arrêter de voir seulement les parties. C'est une des erreurs fondamentales qu'aujourd'hui on fait toutes, puis qu'aujourd'hui on fait encore, en fait, c'est de voir seulement les parties, quand en réalité, les parties sont rien sans le député. Les partis dépendent de leurs députés, puis ce que je trouve complètement aberrant, puis c'est tout parti confondu, dépendant de la vision, parce que les chefs changent des fois, puis les visions changent, c'est que les partis ont tendance à couper les liens entre ce que l'individu peut dire, puis ce que le parti veut représenter. Je veux dire, un individu peut être en faveur du parti, mais quand même avoir des opinions différentes, mais c'est rare qu'on va voir publiquement des députés contredire ou venir apporter une vision différente de l'idée du parti.
Non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est important, là.
Je te dirais que le gros problème... Oui, c'est ça. Donc, le gros problème que je vois dans ta pensée, en fait, c'est que les lignes de parti sont...
Trop présentes.
Plus que d'être trop présentes, elles sont le gouvernement.
Tu l'as vécu. Je pense que le Bloc avait une des lignes des partis les plus souples avec les conservateurs... Mais à un certain stade...
Non, ça reste que... Il faut s'attacher, aujourd'hui, du moins, il faut s'attacher à cette ligne de parti pour avoir une simple chance d'être inclus dans l'élite interne du parti en question. Et...
C'est tellement contre anti-évolutif.
C'est plus que ça. C'est limite antidémocratique jusqu'à une certaine limite. Là.
Quel parti serait les pires pour ça, vous pensez?
Moi, j'ai tendance...
Ou NPD, quelle marge de manœuvre que t'avais, toi? Parce que je serais curieux de voir, vous, entre vous deux, lequel avait la plus grande marge de manœuvre?
Écoute, j'étais pas... Je veux dire, moi, là... La ligne de parti, oh mon dieu, moi là, ça commence bien, hein, l'Abitibi en moi ressort.
Moi, là...
La ligne de parti était... assez sévère, honnêtement, mais j'avais un malin plaisir à me dire, tant que je suis social-démocrate, moi, c'était ma ligne de parti. Même si c'était pas elle qui partageait mon parti, j'ai dit, moi, je suis social-démocrate. Puis, tu sais, je veux dire, à un certain stade, ce que je trouvais difficile au NPD, ce que j'avais vécu, c'est que il y avait un manque de ressources présentes pour suivre et supporter les candidats, ce qui est normal dans la circonstance actuelle, mais c'est aussi, on voulait tout contrôler pareil.
Il y a eu une centralisation des prises de décision, au fond.
Ben, si on voulait faire une entrevue, etc., il fallait qu'on passe par les com.
Ben, voyons donc.
Toi, j'entends, c'était pas comme ça.
OK, non, ben, écoute, non. Définitivement, moi, je te dirais que c'était zéro pin bar comme ça, en fait. Moi, honnêtement, au congrès qu'on a eu juste avant de démarrer la campagne électorale, Monsieur Blanchet, j'ai été le voir pour avoir un peu les lignes directrices, puis...
C'est important de savoir qu'est-ce que ton chef.
en somme, oui. Puis, écoute, littéralement, les deux seules choses qu'il m'a dit, c'est « respecte le plan
». Respecte le plan. Pendant que Jérémy essaie désespérément de boire sans que ça fasse du bruit dans le micro.
Respecte le plan électoral par l'indépendance. Le reste... C'est fait tout seul. Donc, c'est-à-dire, j'ai pu participer au débat que je voulais, j'ai pu faire l'entrevue que je voulais, j'ai pu parler avec qui je voulais.
Tu vas avoir le ton que tu voulais dans
le débat. Le ton que je voulais. Exemple.
Ouais, est-ce que tu étais contrôlé là-dessus? Est-ce qu'il fallait que
je sois
positif ou tout ça?
On m'avait enlevé un débat.
On t'a enlevé un débat?
Ouais, le national a décidé de choisir qui calait ses débats. Je veux dire,
pas sérieux.
Ben, écoute, nous, ce qu'on avait dit, il y avait un débat dans mon comté. À l'Université Laval, sur les financements des universités, ça, c'était un des premiers débats qu'il y avait dans mon comté.
Ça fait aucun sens, c'est même pas de domaine fédéral.
Ben, en fait, le fédéral finance une partie des prêts et bourses, parce qu'en fait, il y a eu un retrait du Québec, mais nous, on compense. Puis nous autres,
ici, on l'a pas, mais le reste...
Le reste du Canada, là. La différence, c'est que nous, on s'est retiré, mais on a quand même des compensations. Puis on peut augmenter ces compensations ou les diminuer, dépendant que
t'es pris. Ah, OK.
Puis, dans le fond, ce qui s'était passé, c'est qu'on était persuadé que c'était moi, parce qu'on avait été contacté, puis plus tard, je te dirais, deux jours avant, le National nous avait contacté pour dire finalement c'était Tommy Bureau qui le faisait.
qui est un bon gars.
Il est un excellent orateur.
Deux jours à l'avance, je te fais dire que tu t'enlèves ton débat, ça se fait moins
bien. Je veux juste être certain de bien comprendre. Il y avait un débat à l'Université Laval qui est dans ton comté et c'est pas toi qui es allé.
Non, c'est ça. Ben, en fait,
okay. Tommy est un peu le candidat vedette de Québec, je pense.
Oui, mais oui, ça reste qu'on est dans
son Non, mais je comprends, la logique.
En gros, il faut comprendre aussi la philosophie du parti dans le temps qui était dans une crise, selon moi. Parce que le parti était quand même dans une crise. Ils ont voulu, puis je les comprends d'un certain sens, mais je trouve que ce n'est peut-être pas la bonne approche qu'ils ont eue. Ils ont voulu contrôler, en fait, ce qui se passait au sein... Mais, on va se le dire, on avait les ressources du bloc pour 338 comtés, versus que le bloc, lui, c'était pour 78 comtés. Fait qu'à un certain stade, c'était impossible. Puis, regarde, j'ai eu Jérémy Gabriel qui s'est impliqué dans ma campagne. Puis à partir de ce moment-là, c'est explosé. T'sais. Je veux dire, on avait des entrevues, on avait on avait été invité à plein d'endroits pour être présent au niveau des comités citoyens, au niveau de certains, comme on pourrait parler d'Anna Collard, on pourrait parler des faubourgs, on pourrait parler aussi de tout ce qui se passait en fait dans le Louis-Bert. C'est plate à dire, mais c'est plus Québec. Le Louis-Bert, c'est assez restreint. Sûr. On a le fort.
Il a fait une belle job de com, là, pareil, le jeune. Ben le jeune, il y a notre âge.
Le jeune. Mais c'est, écoute, moi, ce que j'ai eu de la difficulté pendant ma campagne, c'est...
Il est plus jeune que toi, je pense.
Non, il est notre âge.
Mais vous êtes plus vieux que moi, ça veut dire que c'est moi qui est plus jeune.
Exactement.
J'étais plus jeune que Jérémy Gabriel.
Ouais.
Et quel âge?
23 ans.
Ah, il est plus jeune. Ah, ok, c'est ça, il est notre âge.
Mais il a fait une maudite bonne job, là.
Ah, tu l'as suivi? T'as suivi ma campagne?
Ben, écoute, c'est parce qu'à un moment donné...
Il l'a pas suivi, moi, je l'ai suivi.
Non, mais c'est dans l'idée que voici, bon, Jérémy Gabriel, surtout au moment où il a commencé à s'impliquer, pleine crise avec M. Ward... écoute, ça a pas pris de temps que ça a fait le tour du Québec qui a commencé à s'impliquer avec toi, là, tu sais.
Mais c'est...
Jusqu'au journal local à Gatineau, là, tu sais.
C'est quelque chose que j'ai eu de la difficulté. Jérémy a fait un excellent travail, honnêtement. J'ai été excessivement surpris. J'avais pas d'attente. En toute franchise, j'avais juste pas d'attente. Moi, j'avais besoin de staff parce qu'on va se le dire, on manquait beaucoup de personnel. Les gens ne s'impliquent plus en politique parce qu'ils sont rendus blasés, ce que je les comprends fortement. Mais il est venu m'aider, il m'avait donné un coup de main, puis il a fait avancer le mouvement en quelque sorte, mais c'était incroyable le travail qu'il a fait. Quelque chose que je m'en veux énormément par contre. La vidéo qui est circulée sur Infoman aussi, là, où ce qu'il avait officiellement dit qu'il m'appuyait puis tout, j'étais fâché.
Je suis pas au courant.
Parce qu'il a fait une vidéo, il a essayé de la faire un peu drôle, mais c'était...
On avait fait une vidéo où Jérémy nous appuyait, puis nous autres, c'était une façon de se démarquer, c'est une façon aussi de pouvoir passer des messages plus facilement, d'avoir un accès à une certaine auditoire aussi, parce que Jérémy l'avait compris, on était vraiment rendu là. Mais j'étais moins enclin à l'idée, parce que étant des entreprises, je suis conscient que des gens qui voient l'individu comme une ressource et non comme un individu. Mais moi, je suis dans la gang, entre guillemets, qui voit plus l'individu comme un individu et non une ressource. Je veux dire, ça, c'est ça. Mais en fait, on pourrait le dire d'un autre terme, au niveau comptable, on voit des fois des individus comme des dépenses ou comme des actifs. Moi, je les vois comme un actif. Ça veut dire que c'est une valeur précieuse. Mais là, en faisant ça, je savais qu'elle allait avoir un effet de revers. Et on a eu, je dirais, une incroyable quantité de commentaires désobligeants, négatifs, qui ont honnêtement dépassé l'entendement, malgré le fait que j'étais contre la censure. Je me disais, Jérémy, si tu veux qu'on la retire, on va la retirer. Si tu veux répondre, on va répondre. Si tu veux qu'on fasse quelque chose, on peut. S'il y a moyen de le faire. Puis tu sais, moi, tout le long, j'essayais d'intervenir et de dire, écoutez, et puis malgré que c'était pas nécessairement moi non plus tout le temps qui gérais mes réseaux sociaux, j'essayais de plus souvent de faire comprendre aux gens, écoutez, on est blasé, je comprends. On trouve que la politique, sont toutes pareilles. Autant que ça m'insulte, autant je comprends. Je veux dire, j'ai 23 ans, je viens d'arriver dans le décor, puis on me dit, vous êtes toutes pareilles. Je veux dire, OK, ça commence bien, là. Mais ce que j'ai trouvé difficile, c'est que les gens, OK, vous avez beau être blasés, etc., il n'y a aucune excuse sur dénigrer l'impliquement que quelqu'un fait. Cette personne-là s'implique, cette personne-là se bat pour vous. Pourquoi vous la dénigrez? Vous donnez pas le goût aux gens de s'impliquer davantage, en fait. Vous lui donnez juste le goût de dire, OK, non, ben, good.
Littéralement.
De la façon dont t'en parles, on dirait que ça t'a blessé personnellement.
Genre. Oui, parce que je comprends les gens d'être blasés. Je comprends la situation. Mais
ça n'excuse pas leur réaction.
Ça n'excuse pas la réaction, puis ça n'excuse pas le fait que pourquoi qu'on dénigre les gens qui veulent s'impliquer. J'ai 23 ans. Je pourrais faire une carrière si je voudrais. Si j'aurais réellement voulu gagner, si j'avais.
Et le gars, il essaie de se corriger, il se retrompe dans sa connexion, ça va bien.
Si j'avais réellement voulu gagner ou réussir, dans les circonstances actuelles, j'aurais été pour le conservateur ou le bloc. Je veux dire, j'ai été plus en fonction de mes convictions que j'y étais en fonction des possibilités de gagner. Oui, j'aurais pu. Ouais. J'y ai pensé par contre, mais plus pour des raisons.
Ben, que... tu viens de là, c'est pas super. Oui, mais... Ça n'a pas juste été de l'opportunisme.
Non, mais.
Ça arrête un petit mix.
Je te dirais que je partage complètement ta vision des choses. Veux pas, là.
C'est que les gens
sont. Tu sais, non, les gens sont méchants. Il y a beaucoup.
Ils sont pas méchants, mais je veux dire, ils sont blasés sauf que
la méchanceté. Oui, si les gens ne sont pas méchants, ils disent des choses qu'ils ne sont pas.
Écoute, là, deux campagnes électorales en un an, puis il y a quand même du monde qui ont réussi à trouver le tour à dire que j'étais un candidat poteau, là.
Mais écoute,
donc, t'es quand même fait pas loin de 20% au bloc, là.
Ouais, mais je suis quand même un candidat poteau pour ben du monde, puis celle-ci, celle-ça,
oui,
celle-ci.
Mais ça, c'est une autre affaire que toi, t'as vécu.
Il sait pas la vie.
T'es en Outaouais. Ça a aucun sens. T'es en Outaouais, puis tu te présentes pour un parti indépendantiste. Tu t'es fait hurler des affaires.
Ah oui, non, mais. Aussi, là. Oh non, ben écoute, littéralement, je veux dire, bon, fait anecdotique, là, vu que c'est quand même intéressant, on est quand même dans un balado. Pontiac, je me présente pour le blog, vous savez.
En fait, non, ils ne savent pas, tu l'avais jamais dit avant.
Ah, bon, ben maintenant, vous savez. Puis, tu sais, bon, je suis dans le coin de Campbell's Bay, qui est pas mal le Pontiac, donc vraiment, vraiment, vraiment anglophone. Je fais quelques portes, et c'est go fuck yourself, et fucking racist, French frogs, etc., etc., etc. La quantité d'insultes que je me suis fait pitcher, c'est... Ça en est incroyable.
Là. Mais ça, c'est un des problèmes qu'on a eu, puis ça, c'est aussi des faits politiques. Mais comme je veux dire, les classes politiques ont tellement tout fait pour blaser l'opinion des gens au niveau de la politique. Je veux dire, nous, on arrive dans un décor où ce que nos prédécesseurs, d'autres politiciens, ont comme littéralement pourri, en quelque sorte, l'idée d'un politicien, comment que ça devrait fonctionner, que je les comprends d'être blasés pour vrai. Mais ils veulent pas, cette frustration-là, se transforme en attaque, en fait.
C'est que, dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est que vous pouvez le blaser, mais transformer cette frustration-là en quelque chose de constructif. Présentez-vous, changez le système.
Appuyez du monde qui veut
vous aimer, mais soyez pas destructeur, mais essayez pas de détruire ceux qui essayent de
Mais ce que tu viens de dire, c'est très, très, très intéressant, parce que légitimement, je peux le dire, moi, personnellement, j'étais blasé de la politique, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire le saut.
On est deux pareils, d'abord.
Non, ben voilà.
Moi, la politique, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose qui m'intéresse encore, d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on est rendu à faire un balado, mais tu sais, je veux dire, tu peux aussi faire de l'implication sans te présenter pour un parti politique. Regardez, nous autres, on fait un collectif, on fait des chroniques, on va faire des chroniques, des vidéos, on fait un balado, on invite des gens, on discute. Vous pouvez changer les choses sans aller dans le système directement si vous détestez le système.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.